Radio Reflet, la 3, c'est parti.
Arabe, on en vient maintenant à cette polémique. La France a-t-elle permis au colonel Kadhafi d'identifier et donc d'interpeller des opposants au régime ?
Eagle, c'est le nom du logiciel qui fait polémique. Il est français, mais surtout il a servi à espionner des opposants libyens.
Société qui a une spécialité que nous appelons Network Intelligence, c'est-à-dire qu'en fait on extrait l'information des réseaux IP pour alimenter les applications.
Des individus se revendiquant en nombre d'Anonymous ont accordé des interviews aux médias, faisant croire au public qu'ils étaient susceptibles de donner de la voix à notre collectif. Ils s'arrogent le droit moral et physique de parler au nom d'Anonymous, alors qu'ils ne connaissent même pas, en général, le fonctionnement, les détails techniques, l'histoire, ainsi que les principes fondateurs du mouvement.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Reflet en direct et en public à la cantine à Paris. Le thème de ce soir est vaste, très vaste, mais très important aussi. Bonjour au public qui est venu assez nombreux ce soir, j'ai l'impression. Bonjour à vous tous. Vous pouvez faire du bruit, hein, c'est permis. Hein. Vous avez le droit de qu'on sache, parce qu'il n'y a pas l'image. Hein. Merci. Merci à vous. Donc un sujet vaste, on va essayer de le compresser en une heure parce que nos invités doivent partir à 20h, mais je pense qu'on va quand même arriver à travailler cette matière le plus à fond possible. Donc le but de ce soir, il s'agit de comprendre comment a évolué la presse ces 20 dernières années. Alors comment a évolué, en tout cas, où est-ce qu'on en est au niveau de la presse? Je vois les deux invités qui hochent la tête et qui disent « Oula, ça ne va pas être évident ».
C'est vraiment vaste. Hein.
C'est vaste, c'est vaste. Non, mais pourquoi le désamour croissant du public qui apparaît de plus en plus, donc entre elles et les générations aussi qui arrivent et qui sont beaucoup sur Internet, cette presse qui est de moins en moins vendue, qui a de plus en plus de difficultés. Donc la presse, les médias qui sont censés nous informer dans leur ensemble font face à une crise multiple. Leur crédibilité est remise en question à tort ou à raison par ces nouvelles générations de lecteurs. Leur équilibre financier à ces médias est plus qu'instable. Le nombre d'exemplaires vendus baisse pour la presse écrite. TF1 pour la TV est tombé de son piédestal. Les médias ne trouvent pas de modèle économique sur Internet, tout en sentant que leur avenir est là. Et c'est particulièrement vrai pour la presse écrite. Bref, ça va mal, très mal. Alors, cher qui tais-toi, la question que l'on se pose est pourquoi ? Alors que les citoyens ont chaque jour un peu plus besoin d'analyser et de comprendre le monde mouvant qui les entoure. Donc pourquoi, qui tais-toi ? Pourquoi est-ce que la presse va mal ?
Oui, alors Draffer, c'est un peu paradoxal. L'information circule de plus en plus vite et Internet n'est pas étranger à cela. Avec un flux d'informations de plus en plus rapide et fourni, les citoyens ont besoin d'analyser, de traiter, de catégoriser des volumes plus importants. Mais visiblement, si on en croit les chiffres, la presse n'est plus son outil préféré. Du coup, cette émission pourrait se résumer à peu près comme ça, ce que tu as dit. La presse, d'où vient-elle ? Où en est-elle ? Et où va-t-elle ?
Alors, on pourrait en dire un peu plus. Fait-elle encore son boulot aussi ? C'est un peu la question hein, qui est posée de plus en plus. Donc pour traiter ce sujet, les membres du magazine de Reflet, donc qui tais-toi et moi-même, avons invité deux personnes, invitées de marque, qui nous ont fait l'honneur de venir, deux journalistes aguerris. Donc l'un est très connu par son nom, c'est Daniel Schneiderman, qui travaille à Arrêt sur Image. Bonjour Daniel Schneiderman.
Bonsoir.
Mais nous avons aussi Jean-Michel Thénard, qui est journaliste au Canard Enchaîné. Il y avait Mediapart qui était invité, C'était un peu compliqué. On a réussi à avoir, au bout d'un moment, une réponse nous disant de contacter un journaliste, mais qui est devenu très célèbre pour l'affaire dont on va parler aussi, que vous connaissez, l'affaire Cahuzac, et qui n'a jamais répondu. Donc, en fin de compte, Mediapart est un journal très indépendant, tellement indépendant qu'on ne peut pas les inviter. Voilà, ceci étant dit, on va passer donc aux questions avec nos invités. Qui tais-toi, la balle est dans ton camp.
Alors, je vais commencer par une provocation. Ça permettra de lancer le débat en fanfare. Daniel, Jean-Michel, la presse traditionnelle telle que nous l'avons connue il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, est-elle morte ou en passe de le devenir ?
Elle est mal barrée, c'est sûr. Pour répondre à la question est-ce qu'elle fait encore son boulot, j'ai envie de prendre un exemple qui est tout frais. Là. C'est le dernier papier qu'on vient de mettre en ligne sur le site d'Arrêt sur Image, il n'y a même pas une heure. Ça concerne le journal Le Monde. Le journal Le Monde avait beaucoup d'originalité. Il en avait notamment une, c'est qu'il y avait tous les jours une rubrique planète,
oui,
qui était consacrée à l'écologie, à un tas de choses qui se passent dans des continents lointains, qui ne sont pas forcément très médiatiques. Ils avaient sorti un scoop là récemment sur un certain nombre d'insecticides qui étaient en vente libre, bien qu'ils étaient nocifs, etc. À partir de la semaine prochaine, la page planète disparaît du Monde. C'est-à-dire qu'il y aura toujours vaguement des papiers sur l'écologie, mais qu'un coup, ils seront en rubrique politique, un coup, ils seront en rubrique internationale. Et puis, à l'intérieur des rédactions, malheureusement, on sait bien comment l'écologie est traitée quand elle n'a pas de place réservée à fermer.
Et quelle est l'explication du Monde ?
C'est toujours ce qui se passe en dernier.
Quelle est l'explication du Monde pour arrêter
l'écologie, c'est quand on n'a pas la place de... Voilà, c'est quand il reste un tout petit peu de place. Alors, l'explication du Monde, on l'a demandé, il n'y en a pas, ils expliquent qu'il n'y a pas de problème. Enfin, l'explication officielle,
ouais,
ils expliquent qu'il n'y a pas de problème, qu'il y aura toujours des papiers écolos, etc., que ça ne change rien. La pure vérité, c'est qu'ils ont un problème de pagination. Pourquoi ils ont un problème de pagination ? C'est qu'ils vont lancer un supplément économie. Un supplément économie quotidien de 12 pages. Pourquoi ils lancent un supplément économie ? Parce que, évidemment, les pages économie rapportent plus de pubs que les pages écologie, et que vous savez bien, et c'est une des raisons de la crise de la presse, pas du Canard Enchaîné qui n'en a pas, mais de toute la presse qui vit de la pub, une des raisons de la crise, c'est qu'effectivement il y a un gros problème de pub depuis plusieurs années. Donc on est dans cette espèce de spirale où, parce que Le Monde n'a pas de pub, Le Monde va créer 12 pages quotidiennes sur l'économie. Parce que la pagination n'est pas extensible à l'infini, on va donc supprimer la rubrique planète. On va donc appauvrir l'offre d'information du lecteur. On va donc, Le Monde va donc, j'imagine, perdre des lecteurs, ceux qui l'achetaient pour la rubrique écologique, il y en avait peut-être quelques-uns, et va s'enfoncer un peu plus dans cette spirale que connaît maintenant depuis quelques années la presse traditionnelle, et qui fait qu'elle a de moins en moins de lecteurs, donc elle réduit son offre, elle réduit ses effectifs, donc elle a encore moins de lecteurs, etc. etc.
Ouais, on va aborder ces points.
Mais alors, oui, justement, moi, sur cette idée aussi, j'allais demander à Jean-Michel Thénard l'origine en fait du mal quand même. Là, on parle d'économie, on parle aussi de processus quand même, de décision au niveau. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même dans les actionnaires, parce que Le Canard Enchaîné, dans lequel vous travaillez, se porte très bien. C'est un journal qui a même pas mal d'argent, qui a une cagnotte, comme on dit.
Pas autant qu'on le dit. Hein,
mais... Oui, enfin, en tout cas, les gens du Canard s'en vantaient à une époque. C'est-à-dire qu'ils avaient pas mal de fric et qu'ils pouvaient le balancer même en fin d'année, faire une grosse fête et payer les journalistes, enfin, etc. Parce que et sans pub, au passage. Mais est-ce que les actionnaires, ceux qui tiennent la presse, les 80% de la presse française est tenue par des grandes compagnies, dont les gens de l'armement, est-ce que ça joue pas non plus dans les décisions, dans les choix ?
Je pense qu'on est là au cœur du sujet. Là, je pense que la question, c'est pas tellement est-ce que la presse fait bien son boulot, c'est est-ce que la presse peut faire correctement son travail. Et je pense que effectivement, ce à quoi on assiste ces 20 ou 30 dernières années, c'est au fait qu'une presse sous-capitalisée devient entièrement la propriété de capitalistes.
Et voilà.
Moi, quand j'ai commencé humblement ce métier de journaliste dans les années 80, il y avait au moins deux grands journaux qui étaient la propriété de ces journalistes. C'était Le Monde et c'était Libération. Il y en avait sans doute d'autres, mais je cite ces deux grands quotidiens connus de tous. Aujourd'hui, ces deux grands quotidiens, ils ne sont plus la propriété de leurs journalistes. Et le fait est qu'ils ne sont peut-être plus d'aussi grand quotidien qu'il pouvait l'être il y a quelques années.
Donc alors la presse n'appartient plus à ceux qui la font, enfin ceux qui font l'information.
La presse n'appartient plus à ceux qui la font, et ceux qui la font, est-ce qu'ils ont intérêt, est-ce qu'ils ont volonté, volonté économique, volonté politique au sens large du mot, à faire une presse d'information totalement libre? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je pense que effectivement, aujourd'hui, c'est des lieux communs, mais il est bon de les redire. La presse, mis à part le Canard enchaîné, est sous domination des annonceurs, parce que il n'y a pas
la presse classique. Hein.
Oui, je parle de la presse classique, mais on pourra parler d'Internet, parce que je pense que les problèmes sont approchants. La presse est sous domination, soit d'actionnaires qui sont Dassault ou Lagardère ou Rothschild ou etc. Bon, des gens comme ça. Et puis l'autre partie des recettes, ce sont les annonceurs. Donc moi, quand j'étais à Libération, on s'est posé des tas de problèmes avec les annonceurs. À l'époque, justement, on ne se posait pas la question, d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'affaire Dior montre que Libération, une partie de sa rédaction, en tout cas, ne se pose pas la question de savoir si on a le droit de dire à Bernard Arnault « Casse-toi, pauvre riche, est-ce que ça va avoir des conséquences ?»«
Casse-toi, riche con. Hein. »«
Casse-toi, riche con, pardon. » »«
Soyons précis. »
Est-ce que, visiblement, ils ne se sont pas posé la question de savoir si ça allait avoir des conséquences financières? Et c'est très bien qu'ils ne se soient pas posé la question. C'est très bien à court terme, mais à long terme, on sait que ça va peser sur le résultat d'exploitation de Libération, et que donc ça revient quand même à dire quelque part que on ne peut pas, compte tenu du poids des annonceurs, faire n'importe quelle information aujourd'hui dans la presse qui dépend des annonceurs. Voilà, je pense que le problème essentiel qu'on a connu ces 30 dernières années, c'est la sous-capitalisation de la presse en général, de la presse quotidienne en particulier. Aujourd'hui, on est arrivé au bout de ça. Il n'y a plus un journal, mis à part le Canard enchaîné, qui est propriété de ces journalistes. Ça veut dire quoi être propriété de ces journalistes ?
Le monde diplomatique, peut-être.
Oui, oui, non, mais j'oublie Charlie Hebdo, je vends le Canard enchaîné, mais il y en a quelques-uns, mais ouais, dans les grands quotidiens, c'est une certitude, malheureusement, il n'y en a plus. Et donc, ça pèse forcément, comme Daniel l'a dit, ça pèse sur l'information qu'on fait. Et sur, en termes de volume de pagination, en termes de choix de rédactionnel, etc. etc.
On va revenir sur cet aspect aussi, et puis le détail d'un peu tous les points, tous les éléments, parce qu'apparemment, c'est quand même à chaque fois, c'est pas dû à un seul élément global. Il y a effectivement ce dont on vient de parler, l'actionnariat, mais il y a aussi beaucoup d'autres points qui influencent apparemment quand même. Et dans ce que vous renvoyez, on voit qu'il y a, c'est un peu plus vaste. On va écouter un petit peu de musique et on revient dans quelques instants avec ce titre.
Numéro 1, ay papi.
Le Cult of the Dead Co, qui est un groupe de rappeurs américains.
When I'm stroking, when I'm smoking, she's fiending and she's screaming. When I'm teasing, when her face be covered up with the semen, head is majoring and they give me doing these things. Don't ask no questions and I won't tell you no lies. I'll keep that bitch 4 days, get paid when I take the money just to get me high. Ain't nothing but the pit in me, you see. I got to slow it down so them hoes can understand me. Gotta keep it under DL, gotta make a sweat, see what the motel. Otherwise I gotta bid, gotta chase for motel. Gotta go collect my mail, be kicking it where them players dwell. Hold the beat pigeon and blowing up my cell. Oh well, I'll meet you at the telly. Be ready to spread the jelly across your belly. Don't that sound so smelly? The council call me on my cellular telly. I'll never be a hater, never be a saver, because you know I'm just a player. I'm just a player, killing all these cows and it's one at a time. I'm just a player, CDC brings them one at a time. I'm just a player, killing all these cows and it's one at a time. I'm just a player, CDC to the day that I die.
When you ain't even on my level, creative rap rebel. I slap the horns off the fucking devil. Never try to go against the grain. I rain blows upon thee and release a fury hell spawn. Let's get it on. I got the stainless steel 7mm mag polished and loaded. About to blow that ass up, me in the barrel steady smoking. What you ain't know that we were serious. We dropping hits that's making all you hoes delirious. My skills are unmatched, player, because I'm real with this. Hit me till they feel it. I play the field and get in, and I'm all up about my building stacking. Hundreds and hundreds and stunning the crowd. Bitches get wild. See how vibes gon' come with it now. We keep a
alive and get down. Oh shit, there we go again, taking up your shine and fucking up your show again.
Been down since day one, holding a gun, cause too many motherfuckers try to pop you when they know you on top, top.
I'm just a player, killing all these cows and it's one at a time. I'm just a player, CDC brings them one at a time. I'm just a player, killing all these cows and it's one at a time. I'm just a player, CDC till the day that I die.
Demonic, get him up off me, murder softly. Gonna be costly, fuck with a G with a thug of the fat of the same. For the green and nicotine and a pound up on that triple beam. For the crane and a ring, your dream when I run it up on that beat. Gonna eat like me, but I cut up on the street, but a thief when you see me, slow it down. Once again, I'm under pressure, living less, I'm making better. Feeling for my cheddar like a rock star. Play my fucking chord with my heart, ripping motherfuckers all apart. Man, cause I'm in it, let me kick that thug shit. For a minute, maybe I could win it. G, smoking weed, living life, buck wild. That's a dream for now, quick to pack a black and mild. Get on chill, burning proud, burning proud.
I'm just a player, killing all these cows and it's one at a time. I'm just a player, CDC brings them one at a time. I'm just a player, killing all these cows and it's one at a time. I'm just a player, CDC till the day that I die.
Que rico.
Radio Reflet en direct et sur le réseau grâce à trifon.org, à la cantine, à reflet.info. Nous parlons ce soir de la presse, des médias et de leur lente agonie avec Daniel Schneiderman et Jean-Michel Thénard du Canard Enchaîné et pour le premier d'Arrêt sur Image. Qui tais-toi ?
Oui, donc on a dit la presse va mal, le constat est partagé par tous, surtout par ses actionnaires d'ailleurs, et à tel point qu'elle fait appel massivement à des aides gouvernementales et maintenant même à Google. Est-ce bien raisonnable ?
C'est pas la même chose. Les deux, je veux dire, le gouvernement et Google. Nous, par exemple, à arrêtsurimage.net, dès le début, un, on a décidé qu'on n'aurait pas de pub. Deux, on a décidé, après réflexion, consultation de nos abonnés et tout, enfin débat démocratique, à l'issue duquel le patron a tranché comme d'habitude dans tous les débats démocratiques. La démocratie, ça veut bien une seconde, la démocratie, mais bon. On a décidé qu'on ne demanderait pas de subvention gouvernementale. À partir du moment, vous savez, sous Sarkozy, à un moment, le gouvernement a décidé que la presse en ligne aurait droit aussi à des subventions gouvernementales. Alors, bon, on en a débattu, parce qu'en même temps, c'est de l'argent public. Donc, et puis, la presse traditionnelle en palpe par millions.
Par millions, oui. Oui,
Le Monde, Libé.
Mais Le Monde, Libé, tout le monde.
Sans superfusion, particulièrement.
Sans superfusion. Et on ne sait pas où ça passe, les dossiers. Enfin, je veux dire, il y a une gabegie considérable.
Il n'y a pas de contrôle là-dessus ?
Il n'y a pas de contrôle a posteriori, je veux dire. Oui. On est censé remettre des dossiers, mais enfin...
Faut-il moraliser la presse sur les aides gouvernementales ?
Je finis juste, parce qu'il y a une question sur... Donc, les subventions d'État, non. En revanche, le système Google, là, a priori, dans la mesure où il s'adresse uniquement à la presse en ligne, et dans la mesure où il est co-attribué par le gouvernement Google et la profession, qui sont trois instances qui se tirent la bourre intensément, si vous voulez, on se dit, oui, ça, il faudrait voir. Pourquoi pas, effectivement, financer un projet de développement qu'on pourrait avoir sur Arrêt sur Image par cet argent miraculeux de Google. Alors, bon, sur les raisons pour lesquelles Google donne de l'argent à la presse en ligne, et sur est-ce que ça représente ou pas une solution pérenne à long terme de financement pour la presse, on pourrait parler des heures, c'est pas la question. La question que vous posez, c'est là, voilà, il y a cette source de financement. Et on ne peut pas l'analyser, à mon avis, exactement comme une subvention d'État.
Oui, sur la partie introspective des responsabilités aussi de la presse, c'est vrai que la presse, par exemple, il y a des choses sur lesquelles elle revient extrêmement souvent. Par exemple, sur les responsabilités de l'État, la presse a parlé énormément de Florange, du site de Florange, de la responsabilité de l'État qui avait laissé tomber les ouvriers. Et donc, dans le même temps, on peut se poser la question, paradoxalement, la presse, elle parle peu des 1500 postes qui vont disparaître chez Presstalis, le distributeur de la presse écrite, ou la fermeture des kiosques à journaux. Elle ne parle pas non plus des armées de pigistes précaires, particulièrement donc ceux qui sont en CDD, et puis moi je pense aux JRI pour la télé, qui doivent maintenant tout faire absolument tout seuls, pour pas grand-chose, et qui souvent sont menacés aussi d'être remplacés par des jeunes prêts à tout et qui sortent des écoles. Donc est-ce que c'est compliqué l'introspection pour les gens de la presse, pour des gens qui sont aussi en responsabilité de médias comme, comme vous, Daniel, par exemple, ou Jean-Michel Thénard, qui est journaliste au Canard, mais voilà, est-ce que...
Bah, moi, je dirais que les journalistes ont parfois et souvent trop tendance à parler d'eux-mêmes. Donc, c'est très bien de faire la critique du journalisme. C'est très bien de faire la critique du journalisme, il en faut. On a ici quelqu'un qui fait ça remarquablement chaque semaine, voire davantage. Mais... parler de soi, je pense qu'il faut le faire un peu, mais pas trop. Quoi. Les gens, ils n'achètent pas les journaux pour avoir... cela étant, il faut être transparent, ça c'est autre chose. Bon,
bah, ça même. Pour être transparent, il faut parler de toi.
Bien sûr, non, mais c'est par rapport... la presse ne parle pas assez d'elle-même.
Mais disons qu'elle il y a beaucoup d'attaques qui sont proférées autour, en disant il y a telle responsabilité, il y a l'armement qui a acheté, etc. Mais derrière, est-ce qu'elle parle
c'est
de
autre chose.
Sa propre
sur,
façon
sur,
de
sur la critique de la presse en général, de son produit, de ce qu'elle produit, etc., ça c'est légitime. Qui est cette critique-là qui soit faite, la critique de la connivence, la critique du rapport avec les politiques, la critique de la façon dont la presse travaille, etc. Que la presse, en revanche, passe son temps à se pencher sur son organisation ou son sous, c'est autre chose.
Non, pas tout le temps.
En gros, tout dépend de la manière dont elle parle d'elle-même. Quand elle fait son autopromo, c'est insupportable. Mais en revanche, je pense qu'il faut de la transparence. Je veux dire, la presse, c'est un machin qui exige de la transparence de tout le monde. Elle exige de la transparence des politiques, elle exige de la transparence des syndicats, des entreprises, des sportifs.
C'est pas
de,
le cas.
C'est à ça que je voulais venir.
De l'édition, la moindre des choses, c'est qu'elle soit, soit auto-transparente. Quoi.
Mais c'est à ça que je voulais venir, parce que c'est assez intéressant de voir, par exemple, des grands journaux, Libé, Le Monde, etc., attaquer billes en tête, l'ultralibéralisme, etc., et qui finalement utilisent exactement les mêmes méthodes, le recours, on en parlait, donc au CDD, etc., les gens complètement précaires. C'est assez paradoxal en fait.
Parce que vous trouvez qu'ils attaquent bien en tête l'ultralibéralisme ?
De moins en moins.
Ils ont encore un peu la velléité de dénoncer la précarité, par exemple, voilà. D'attaquer le gouvernement qui n'est pas assez à gauche, par exemple, sur le social.
Ah bon,
et qui,
vous lisez Le Monde ?
Non, pas Le Monde, je pensais à Libé. C'est quand même à Libé, pas Le Monde.
Même, franchement, il faut lire attentivement.
De moins en moins, oui, non, c'est vrai. Il y a Daniel Schneiderman qui écrit dans
Le Monde. Oui, je sais bien.
Pas obligatoirement spécialement du côté du libéralisme.
Quoi moi, si vous voulez, je suis collaborateur extérieur de Libé. Oui, je fais une chronique chaque semaine. Je ne suis pas intégré à la rédaction. Et compte tenu de l'exercice particulier qui est le mien, qui est justement de parler des médias, c'est mieux que je ne sois pas intégré à la rédaction de Libé. Je le fais avec plus de...
Oui, mais vous en faites partie dans le sens où vous faites partie du journal. Pour les gens, vous êtes quelqu'un qui écrit dans Libé.
Oui. Ça, je ne peux pas le nier.
Ouais, voilà. Non, mais c'est...
J'aurais du mal.
C'est important.
Alors, il y a aussi un autre sujet qui est intéressant, c'est l'utilisation massive des dépêches qui sont à peine remaniées. Et ça commence à se voir avec Internet, puisque finalement, les articles se ressemblent souvent au mot près. On peut maintenant percevoir un peu la faiblesse du journalisme d'investigation dans la presse écrite classique. Et l'affaire Cahuzac montre même la timidité, pour être gentil, des journaux traditionnels. Et moi, je voudrais savoir comment vous analysez cette évolution. Alors, le journalisme d'investigation, c'est un peu la marque de fabrique du Canard. On ne voit pas beaucoup de dépêches retouchées. Mais dans le reste des journaux, il y a des flux sur Internet, dans chaque journal, dans Le Monde,
même pas
dans
sur Internet, d'ailleurs.
Qui sont vraiment des flux de dépêches, tout simplement. Est-ce que ça a une valeur ajoutée ?
Non, mais c'est parce que... non, les flux de dépêches, ça n'a pas de valeur ajoutée. Mais c'est parce qu'on est passé aussi... Les quotidiens, ils avaient... Il y a encore 10 ans, 20 ans, la culture de l'exhaustivité. Donc l'exhaustivité, on racontait le monde dans un journal de 24 pages, 40 pages, etc. On racontait le monde. Donc même quand ces journaux avaient quand même plus de moyens qu'ils n'en ont aujourd'hui, ils se servaient aussi de l'agence France Presse pour raconter un certain nombre de choses, des brèves, etc. Toute la question, c'est de savoir ce qu'un journal, un titre en particulier, apporte en plus. La presse gratuite, elle ne va faire que du rewriting de dépêches. Bon, c'est gratuit, on le sait, c'est comme ça. dès lors qu'on paye, évidemment, le lecteur, il s'attend à ce qui est ce qu'on appelle la plus-value, qui est de la plus-value, que le journal apporte de l'information exclusive, de l'analyse exclusive, de l'enquête, de la compréhension du dessin humoristique ou pas humoristique, que sais-je. Voilà. S'il n'y a rien de tout ça et qu'il y a juste un fil de dépêche réécrit, c'est évident que c'est une raison supplémentaire de la désaffection, effectivement, des lecteurs et que le lecteur n'achète plus. Le problème de la presse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a, je pense, encore trop d'espace aujourd'hui dans les journaux qui sont des espaces de reproduction d'un flux de l'agence France Presse ou d'autres agences où le lecteur ne fait pas la différence qu'il achète tel titre ou tel titre sans vouloir en citer aucun.
Même de réécriture aussi.
Bien sûr, voilà. Donc, en revanche, dès qu'un journal a de la plus-value, une analyse qu'on n'a pas lue ailleurs, des informations qu'on n'a pas lues ailleurs, un reportage qu'on est allé faire et qu'on a lu nulle part ailleurs, là, ça suffit à justifier l'existence du titre.
21, par exemple, qui fonctionne très bien et qui fait que du reportage, par exemple.
Bah, c'est que de la plus-value, 21.
21, c'est que de la plus-value, ça marche très bien.
Non, mais 21, on ne peut pas l'analyser comme un organe de presse sur un journal. C'est autre chose.
Oui.
C'est autre chose. C'est un trimestriel, c'est une revue. On est dans un autre monde. Non, mais est-ce que dans les causes de la crise, vous venez d'en souligner une qui est l'apparition de la concurrence Internet. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant, on avait des anciens médias qui formaient un système homogène et monopolistique, qui était le seul, en fait, avec un petit milieu de journalistes, souvent parisiens, qui se connaissaient tous et qui pouvaient à peu près raconter tous la même chose. On n'avait pas de point de comparaison. Depuis qu'ils sont apparus les médias Internet, c'est-à-dire depuis maintenant 5-6 ans, en gros, il y a une grosse cargaison de médias Internet qui est apparue en 2007 avec l'arrivée de Sarkozy. Depuis qu'ils sont apparus, on compare.
On peut remercier Sarkozy.
Mais oui, mais bien entendu, on remerciera jamais assez Nicolas Sarkozy, Frédéric Lefebvre, Nadine Morano, Brice Hortefeux,
surtout Nadine,
et tous les autres bienfaiteurs de la liberté
merci
de la presse.
Merci à vous, merci encore, merci.
On les remerciera.
C'est ceux qui étaient sur le mur des cons.
Tous ceux qui étaient, en gros, tout le mur des cons, qu'il faut remercier pour son apport décisif à la liberté.
Le con est toujours utile.
C'est connu. Exactement. Et donc maintenant, on compare. Vous parliez de Cahuzac. Il est évident que le travail qu'a fait Mediapart sur Cahuzac a démontré d'une façon éclatante aux yeux du public que maintenant, il y avait une presse indépendante et que par définition, l'autre presse ne l'était pas. Moi, j'étais scié au moment de l'affaire Cahuzac, par exemple. Il y a Jean-Marc Ayrault qui est venu au 20h de France 2 chez Pujadas. Et tous les deux ont commencé à dire formidable la presse indépendante, formidable la presse indépendante. Et je me disais, Pujadas qui parle comme ça de la presse indépendante, s'il se rend compte que dans l'esprit des gens, veut dire que lui, il ne l'est pas.
C'est un peu balai-masque, quelque part. Il y avait un petit côté comme ça, hop, on est démasqué. On aimerait bien savoir ce qu'en pense le public dans cette émission, comme on est en public, on fait un peu d'interaction. Donc en milieu d'émission, souvent on demande aux gens du public s'ils veulent intervenir, poser une question aux invités, donner leur point de vue, quoi que ce soit. Donc en général,
c'est vachement interactif chez vous. Hein.
Exactement. On est sur Internet.
C'est cool
sur Internet. Sur Internet.
Ça ressemble vraiment à Internet.
On fait les commentaires en direct. Tu vois, hop. Allez, quelqu'un.
Est-ce qu'il y a des volontaires
Si, il y a toujours quelqu'un qui veut. Toujours quelqu'un qui veut. Mais si.
Alors,
pas de timidité. Le jeune homme, là, au milieu.
Oui, bonjour. Voilà.
Bonjour, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Fabrice.
D'accord, bonjour Fabrice.
Donc, je suis lecteur de Reflet.
Oui, c'est bien.
Et j'y
contribue aussi des fois, non ?
Oui, ça m'arrive.
C'est ça.
Ça m'arrive. Je voulais rebondir sur ce que disait Daniel sur l'affaire Cahuzac et ta réplique. Il y a eu effectivement un aspect balai-masque où le grand public, c'est-à-dire pas nous, pas ceux qui faisons et qui travaillons dans la presse ou qui travaillons au côté de la presse, a brusquement réalisé que il y avait l'essentiel de la presse qui avait très clairement besoin des sous des annonceurs et que les annonceurs, c'était aussi des sujets, une grosse partie des sujets. Et la confiance du public dans la presse en général et dans les journalistes en particulier s'est vraiment effondrée. Quotidiennement, mais là, il y a vraiment eu un après et avant Cahuzac. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à avancer dans cette crise de la presse, alors dont tous les deux vous êtes extraits, hein, vous avez l'un et l'autre, un titre Mediapart qui est absent ce soir malheureusement, trouver un canot de sauvetage, mais le bateau, le Titanic, lui, est en train de couler.
Je sais pas si le canard enchaîné serait très content d'être traité de canot de sauvetage.
Un très joli canot de sauvetage, doré et tout ça. Mais malgré tout, une exception qui confirme la règle que la presse coule, et elle coule non seulement pour des raisons de modèle économique, mais aussi parce que le manque absolu de valeur ajoutée est flagrant aux yeux de tous. On va faire comment à partir de là ? On va continuer à subventionner quelque chose que le public considère comme complètement inutile ? Où on va plutôt essayer de favoriser d'autres initiatives pour faire renaître quelque chose au risque de porter une grave atteinte à la stabilité que M. Hollande reconnaissait comme indispensable encore hier en Chine.
Ben là, je ne sais pas très bien quoi répondre. Moi. La stabilité, moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Je veux dire, comme disait notre maîtresse à penser à tous, Laurence Parisot, tout est précaire ici-bas.
La vie est précaire.
Bah,
on en meurt à la fin.
On vit, on meurt, et je pense qu'il en va de même pour les médias. La donnée de base, pour moi, c'est que, alors vous me direz, je suis peut-être très très optimiste, mais je veux croire qu'il y aura toujours un besoin d'information. Dans une démocratie, je veux croire que le public, les gens, les citoyens auront toujours besoin d'une information libre, indépendante, impertinente, foisonnante et non contrôlée. Bon, à partir du moment où le besoin existera toujours, le besoin trouvera les structures économiques, je ne sais pas lesquelles. Hein. Je ne dis pas que ça va être facile et je ne dis pas que ça va être très stable. Mais je dirais la fonction inventera ses organes et ses formes. Je ne sais pas comment. Alors, j'ai quand même une petite intuition, si vous voulez, que ça se passera plutôt sur Internet que sur des supports papier ou par voie hertzienne ou enfin, dans les formes traditionnelles, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que moi, mon expérience personnelle, moi, j'ai fait de la télé. J'ai travaillé 25 ans dans un journal papier traditionnel et maintenant je suis sur Internet. Et mon expérience personnelle, c'est que Internet est le meilleur support de production d'informations. Il n'y a pas mieux qu'Internet pour produire de l'information. Parce que vous pouvez faire de l'écrit, vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire de l'audio. Parce que les réactions du public vous enrichissent toujours, vous enrichissent très vite. Le public vous signale des sujets, vous oriente sur des pistes, vous rectifie quand vous êtes gouré ou quand vous faites fausse piste. Fausse route, parce que évidemment les liens qui sont un enrichissement considérable d'un contenu. Donc je pense qu'Internet c'est le meilleur support de production d'information, pas forcément le meilleur support de consommation d'information.
Mais ce qui veut dire peut-être que la presse classique est morte ou presque morte, enfin va mourir, va disparaître.
Bah, j'en sais rien.
On peut l'imaginer ou pas. Enfin, le canard ne mourra pas, on le sait. Hein,
le canard est mortel comme tout à chacun, mais moi je suis moins optimiste que Daniel quant à l'internet parce que sauf erreur de ma part, je connais bien moins l'internet que lui et que beaucoup ici. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même, dans la période récente, des sites d'information intéressants qui fermaient, qui manquaient d'argent, etc.
Il n'y a pas de modèle économique.
Je pense que voilà, le problème économique de la presse écrite, quelque part, par rapport à son indépendance, c'est un problème qu'on retrouve sur l'Internet. Moi, je vois, j'ai des amis qui, effectivement, en même temps que Daniel, sont allés sur l'Internet, dans les années 2007, il y a au moins Mediapart et Rue 89. J'ai des amis dans ces deux sites. Je vois qu'il y en a un qui est devenu finalement la filiale d'un grand groupe de presse.
Du Nouvel Obs, c'est Rue 89.
Ce qui repose des problèmes en termes d'indépendance, même si ce que fait Rue 89 est très bien, mais il y a quand même un problème d'indépendance. Puis il y en a un autre qui est né en même temps, qui est Mediapart, qui semble avoir trouvé un équilibre économique. En tous les cas, c'est ce que disent ses dirigeants, et j'espère que c'est juste. Mais on voit bien que l'avenir est probablement sur l'Internet, mais l'Internet aujourd'hui ne garantit pas une information indépendante et rien ne nous indique que dans les années qui viennent, les mêmes qui ont pris le contrôle de la presse parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les communicants,
n'auront pas le contrôle, contrôle
de la presse Internet. Ouais. Et là, je suis aussi beaucoup moins optimiste que Daniel. Moi, je vais vous dire que les journaux, que finalement l'impôt, l'État, contribue à faire exister ou à faire subsister la presse papier, ça ne me gêne pas. Du moment qu'il y ait transparence, il y ait...
Et que l'État ne s'en mêle pas.
Que l'État ne s'en mêle pas. Voilà. Que Google finance un certain nombre de sites compte tenu de ce qu'est Google, moi je trouve ça préoccupant
parce que j'ai à l'heure qu'il est, mais encore une fois, c'est un point de vue de béotien, je suis béotien sur ce domaine d'Internet, mais je n'ai pas l'impression que Google soit une entreprise capitaliste totalement désintéressée par rapport à l'argent, par rapport à un certain nombre de valeurs, etc. Et donc, je n'ai aucune garantie quant à, aux arrière-pensées de Google qui va aider à financer un certain nombre de sites d'information.
La roue tourne, l'heure avance et on a une autre question dans le public d'un jeune homme. Bonjour, si vous pouvez vous présenter.
Oui, bonjour, je m'appelle David. Moi, j'ai une petite question justement concernant l'économie. Est-ce que déjà la presse classique s'est pas un peu trop reposée sur les budgets pub pendant tout un temps et que justement elle se retrouve un petit peu à la rue vu que les budgets seraient en train de se casser plus ou moins la gueule? Et comment est-ce que on peut faire en sorte que ce soit le public et les lecteurs ou les spectateurs de, comme par exemple ceux qui sont abonnés à Arrêt sur Image qui peuvent voilà, soutenir massivement la presse? Est-ce que, il me semble qu'il y a un concept qui existe qui s'appelle le paywall. Comment est-ce qu'on passe par-dessus, comment est-ce qu'on arrive à faire passer les internautes par-dessus ce paywall, quoi?
Votre question, c'est comment on arrive à faire payer l'internaute?
Oui,
c'est
ça,
en gros. D'accord.
Qui est habitué à avoir de l'information gratuite beaucoup sur Internet.
C'est un vrai problème. Hein. C'est le principal problème de la presse en ligne et des sites de presse, c'est clair. C'est un problème auquel nous, à Arrêt sur Image, on se heurte tous les jours. Qu'est-ce qui a été... Alors, on va être très clair. Nous, à Arrêt sur Image, puisqu'on parle de modèle économique, qu'est-ce qui a été notre chance au départ? C'est que le site, il est né... De l'éviction de l'émission de télé de France 5, puisqu'avant c'était une émission de télé sur France 5, je vous raconte ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui n'ont pas forcément connu cette période, que quand l'émission a été virée de France 5, les internautes ont été furieux. Il y a eu une pétition en ligne qui a rassemblé 180 000 signatures de protestation contre la suppression d'Arrêt sur Image. Et nous, quand on s'est lancé, si vous voulez, les premiers abonnés qu'on a sollicités, c'était les signataires de cette pétition. On est parti parce qu'on avait ce trésor de guerre de 180 000 adresses mail sur lesquelles on a récolté nos abonnés. Alors, et c'est une grande chance qu'on a eue. Alors, depuis, le public, heureusement, s'est renouvelé et on a chaque année de nouveaux abonnés qui viennent. Mais c'est sûr que pour un site de presse qui n'a pas cette chance au départ, si vous voulez, c'est beaucoup plus dur. Alors, par rapport à ce que disait Jean-Michel, là où je pense que Internet est quand même la chance de la presse de demain, c'est que, Jean-Michel, ça coûte quand même beaucoup moins cher de fonder un site Internet ou une télé ou une web télé que de fonder un journal papier avec ses problèmes de distribution ou de fonder une radio ou une télé traditionnelle qui va de toute façon devoir entrer dans le système institutionnel, solliciter sa fréquence auprès du CSA, etc. C'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas besoin de Xavier Niel ou de Bernard Arnault ou de François Pinault. Ça change quand même plein de trucs. Alors après, effectivement, comment...
Daniel, tu as raison, c'est beaucoup moins cher, mais tu sais comme moi que pour la bonne information, c'est pas gratuit.
Et oui, ça coûte de l'argent.
Ça, c'est l'un des problèmes d'Internet qui a habitué une génération à la gratuité en termes d'information. Mais on sait tous que l'information, la bonne information, ça nécessite beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent.
Alors,
moins qu'un journal. C'est-à-dire qu'en gros, les seules charges qu'on a, c'est les salaires. Mais en gros,
si tu veux faire
oui, mais l'investigation, l'enquête.
Voilà, si tu veux faire du reportage, de l'enquête, etc., il faut de l'argent. Alors, encore une fois, je vois qu'il y a des sites d'infos qui étaient intéressants qui ferment parce que.
Il y a aussi des journaux qui ferment, La Tribune, France Soir, etc.
Et justement, ce soir, on a une interview. On a réussi à avoir une journaliste, très très grande journaliste indépendante, parce que comme d'habitude, nous avons la rubrique l'interview. Imaginaire.
L'interview imaginaire.
Eh oui, Drafeur, j'ai rencontré Annette Gérard, journaliste au Pronde, qui a épluché les Offshore Leaks, ces documents qui mettent en lumière les affaires louches dans les paradis fiscaux. Annette, vous travaillez au Pronde, le fameux journal du soir, et vous avez entrepris un périlleux voyage pour aller analyser des milliers de documents ultra confidentiels. Racontez-nous.
Et oui, des trucs. Au péril de ma vie, j'ai pris un avion à Orly pour me rendre en territoire hostile, à Madrid. Mmh. Après un vol agité, je me suis rendue dans un barrio louche, armée de mon outil de travail, une clé USB de 32 gigabits. On ne lésine pas sur la technologie dans un journal aussi grand que le Pronde.
Alors Annette, la clé USB, franchement, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, ce sont les révélations fracassantes sur les paradis fiscaux et leurs utilisateurs, par exemple la BNP.
Oh, vous savez, la BNP, c'est une banque très respectable. Elle a des filiales dans les paradis fiscaux, mais c'est pour mieux servir ses clients qu'elle tient en haute estime.
Attendez, on dirait que vous dédouanez la BNP, alors vous avez écrit un article sur elle et...
Non mais monsieur Kitata, dans une économie mondialisée, il faut préserver la compétitivité du Made in France. La BNP, menée d'une main de maître de monsieur Baudouin Pro, est tout de même le fer de lance de l'industrie financière française dans le monde.
Annette, vous connaissez très bien monsieur Pro depuis des années, tout comme les membres éminents de la Fédération française des banques. Il n'y aurait pas là une sorte de conflit d'intérêts, un peu comme ceux que le Pronde reproche aux politiques à l'occasion de l'affaire Cahuzac ?
Mais pas du tout, monsieur Quatetoi. Ce sont des sources, rien de plus. Le fait qu'il m'invite régulièrement à déjeuner n'a rien à voir.
Non, mais je ne vous ai pas parlé de déjeuner, ni du fait qu'il vous invitait.
Non, mais est-ce qu'on pourrait nous concentrer sur mon reportage de guerre à Madrid ?
Oui, alors justement, la transparence, ce mot fétiche, pourquoi ne pas, en parallèle de vos articles, mettre en place un mini-site web avec toutes les données que vous avez récoltées sur votre clé USB ?
USB, on dit USB, monsieur Kikaka. Non, vous savez, le public ne peut pas comprendre ces documents. Il lui manque du temps de cerveau disponible au public. Seuls de grands reporters financiers de guerre peuvent lui expliquer ces choses.
Merci Annette pour ces révélations tonitruantes sur votre enquête, votre plongée informatique en apnée, comme vous dites, le tout en eau profonde infestée de requins de la finance.
Oui, c'était extrêmement dangereux et j'en frémis encore.
Alors pour finir Annette, vous n'avez pas l'impression que le Pronde découvre la Lune ? Tout le monde sait depuis des années que les banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux et c'est même écrit noir sur blanc sur leur site web d'autre part. Tout était déjà décrit dans les livres de Denis Robert.
Non mais attendez, Denis Robert n'est pas journaliste, il n'a aucune légitimité, c'est un romancier, il fait des romans, il raconte des histoires.
Tout de même, il a gagné ses procès, la Cour de cassation indique que son travail était exemplaire.
Ah, vous me l'apprenez, je n'ai pas eu accès à la presse pendant mon apnée madrilène. Je remonte des grandes profondeurs obscures. Quelqu'un a publié quelque chose sur cet arrêt de la Cour de cassation ?
Annette, vous devriez lire la presse de temps à autre. Enfin, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir. With a Commodore 64 can hack into NASA. This one's dedicated to all the hackers. Yo. Even out, settle scores quick. A disaster recovery requires even more discs. Put your bites up, prove it or you forfeit. Got my C64 and we blew it into orbit. M Bison with eight straight perfects. Overvolt emotions make hate break circuits. In case you heard, it's a name fake service. Optimize our runtime to escape verdicts. Got an integer scope flow that they can't sign. Passing code, didn't sanitize command lines, landmine. So before they'll see me after, I'm advice star, courage world plus velociraptor. Don't prove we're human unless we really have to. My team builds schemes and destroy, recapture. Hate what they see, finish this chapter. By the way, we're not any geeks, we hack into NASA. Drink all the booze. With the Raspberry Pi, don't compare to this track. It makes everything they said dull. Neutralize any threat. Turn Red Skull to Dev Null. They killed virus writers that we mentioned. But instead, they ascended to the VX heavens. Then reincarnate as live wires. Still inside, we hide ciphers and signed device drivers. Which school will we hit next? They didn't learn the format, so we've got a print app. Next step is a chin check. Freestyles that I spit best, they didn't decrypt yet. I crush internet MCs and rhyme battles. Get your Wi-Fi. I popped it with vodka in a cyanide capsule. Stay in.
and trace every buffer. Examining the code flow, haven't been to sleep, better pop another dodos. I think I'll need a planet-sized urn, cause some men just wanna watch the world burn. Your turn.
Stay out of jail.
Technologically possible, yeah.
Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Got this vodka and this Red Bull, they still give me wings. So we drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Drink all the booze, hack all the things. Zero through three, we're in every single ring.
Donc on vient d'écouter Dualcore, All the Things.
Et nous revoilà après cette courte, cette courte plage musicale. Qui était toi, tu voulais présenter le groupe?
Oui, c'est ce que je viens de dire.
Ah, j'ai pas entendu. Moi, dans mon casque, moi, j'entends rien. J'entends que le son. J'entends quand il y a du son, j'entends pas les gens. C'est pas grave. Cette interview imaginaire était assez fantastique. Tu voulais d'ailleurs remercier Annette juste avant de faire réagir les invités.
Oui, tout à fait. Donc Annette Gérard, de son vrai nom Anna Ravix, qui est à mon sens une relève très prometteuse pour ce métier qui est le nôtre. Voilà. Alors. Vous connaissez Annette Gérard.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste pour dire que contrairement à ce que pourraient imaginer des auditeurs mal renseignés, les personnages de votre sketch là n'étaient pas du tout imaginaires.
Pas complètement.
C'est jamais vraiment imaginaire, voilà. Les interviews imaginaires.
Puisque effectivement, il se trouve, et on l'a raconté sur Arrêt sur Image, que la journaliste qui a été chargée par Le Monde de traiter Offshore Leaks et d'être la correspondante française d'Offshore Leaks est par ailleurs une spécialiste de la banque de longue date et qu'elle avait fait papier sur papier avant la radieuse révélation de son voyage
à Madrid
pour Offshore Leaks, avait fait papier sur papier pour expliquer que le système bancaire français était très bien, parfait, il ne fallait surtout pas y toucher, et que les investissements dans les paradis fiscaux, c'était quelque chose de formidable.
Quoi. Ce qui pose question, en fait, finalement, parce que, quelle légitimité pour parler de ça aujourd'hui?
Non, il y a l'idée.
Oui, c'est une vraie question.
Il y a l'idée aussi.
En revanche, il y a un très bon dossier du Canard qui vient de sortir sur l'exil fiscal.
C'est vrai, absolument. 6 euros, 100 pages.
6 euros, 100 pages. Excellent. Dans tous les kiosques, c'est vrai. Voilà.
Ouais, je pense qu'il faut se le procurer. Mais justement, moi, j'allais poser la question de un journaliste. Bon, on est tous journalistes autour de cette table. Si ça se mitonne bien avec des voyages, avec des choses, des repas, il y a eu pas mal d'exemples qui sont sortis ces 20 dernières années. On n'arrive pas tranquillement à lui faire faire ce qu'on a envie, lui faire dire ce qu'on a envie qu'il dise.
Mais je crois que dans la désaffection des lecteurs pour la presse, il y a en effet cette dimension-là, c'est que le métier de journaliste, il est quand même devenu très difficile à faire. Mmh. Pourquoi ? Parce que tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, c'est-à-dire les pouvoirs, c'est eux qui ont de l'argent. Encore une fois, la presse, on l'a dit tout à l'heure, elle est malheureusement sous-capitalisée. Tous ces pouvoirs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ces 20 dernières années ? Avec leur argent, ils ont payé des communicants, en effet, dont certains ont été à la une de l'actualité ces dernières semaines. Ces communicants-là, leur job, c'est quoi ? C'est de mettre en scène la parole, le discours que veut donner le pouvoir politique, économique, médiatique, etc., etc. Et donc, ils arrivent, ils ont des équipes importantes, ils ont souvent du talent, ces gens-là. Ils auraient pu être journalistes de talent, ils ont choisi d'être de l'autre côté. Et ils racontent des histoires. Et ils racontent généralement des histoires qui sont bien faites, avec un début, un milieu, une fin. Donc, le journaliste, il réceptionne cette histoire.
C'est appétissant.
Parce que s'il veut avoir accès à l'entreprise, au pouvoir politique, au pouvoir sportif, quel qu'il soit, il ne peut plus souvent, malheureusement, passer que par là. Enfin, une bonne partie de son accès est par là, en tout cas. Et justement, le bon journaliste, il va devoir résister à cette bonne histoire, il va devoir aller chercher d'autres portes, trouver d'autres accès, vérifier si l'histoire qu'on lui raconte est juste ou pas juste, etc., etc. Et ça, c'est un vrai boulot. Et lui, on en revient au début de notre discussion, le journaliste, il est dans des conditions de travail qui ne sont pas celles du communicant. Il n'a pas l'argent du communicant, il n'a pas le... etc., etc. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de journalistes qui ont tendance à prendre parfois les histoires que leur livrent les communicants pour la vérité. J'ai lu dans un portrait de Libé hier une chose très, très, très intéressante que disait Anne Hommel, ancienne de RSCG, qui a fait la communication de Cahuzac. Elle disait « La vérité, ce n'est pas mon problème ». Et elle a totalement raison.
Elle a totalement raison. Là où ça devient problématique pour les journalistes, c'est quand ils oublient que les communicants sont là pour leur raconter des histoires, quand ils ne vont pas voir si ces histoires sont vraies, et quand ils oublient que, eux, leur problème, c'est la vérité. C'est une certaine vérité.
C'est marrant, parce qu'on a fait une émission sur le site il y a quelques semaines sur justement l'affaire Cahuzac, et en se demandant pourquoi... La flopée de journalistes qui institutionnellement couvrent Bercy et couvrent Cahuzac et sont en contact quotidien avec Cahuzac, pourquoi ils avaient eu tant de mal à lui poser la question directement, voilà. Et alors on a appris un truc que moi je ne savais pas d'ailleurs, mais on l'a appris dans l'émission là, c'est que pendant toute l'affaire, c'est-à-dire Mediapart a sorti l'affaire début décembre, et donc pendant tout le premier trimestre 2013, alors Anomel ou je ne sais qui, enfin les communicants de Cahuzac, lui ont organisé des déjeuners avec toutes les rédactions parisiennes, prises une par une. Il y a eu un déjeuner Libé, il y a eu un déjeuner Obs, il y a eu un déjeuner France Inter, il y a eu un déjeuner, enfin je veux dire, une par une. Et que dans ces déjeuners, étrangement, Cahuzac a tenu un discours totalement incohérent aux journalistes. C'est-à-dire qu'à la fois, il disait « c'est pas moi sur la bande », etc. En même temps, dans le même déjeuner, alors qu'il avait dit ça à l'entrée, au dessert, il était en train de dire « oh là là, je vais me prendre une praline un de ces jours, ça va très mal se passer », tout. Donc le discours était totalement incohérent. Donc les journalistes savaient qu'ils avaient affaire avec un type qui était psychologiquement très perturbé par ce qui arrivait.
Mais est-ce que
personne n'a fait de papier.
Mais la question, c'est personne est-ce que c'est le travail des journalistes d'aller à ce genre de petit déjeuner, de repas, d'être en fait, si vous voulez, moi ça me fait penser un peu au renard dans le poulailler et qui invite les poules à venir manger dans son terrier.
Je ne sais pas si c'est le travail des journalistes d'y aller, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où ils y vont, au moins ils racontent.
Oui, alors s'ils racontent les coulisses, s'ils racontent effectivement quelque chose.
Bah, oui.
Mais non, le problème de fond, c'est que moi étant auditeur par exemple de France Inter, il est évident que d'une part, c'est pas dit sur France Inter si on le sait pas à côté, et que effectivement, ce qu'ils vont renvoyer va pas être ça. Ils vont utiliser du storytelling et refaire du storytelling avec du storytelling. Non. Et c'est ce qu'on a eu.
Non, mais la base du métier de journaliste, la toute base, c'est de dire ce que vous savez.
Oui.
Point barre.
Ça n'a pas été le cas.
C'est d'abord de chercher et c'est ensuite de dire tout ce que vous savez.
Toute la question du off, doit-on raconter le off ou pas, etc. Ouais. D'ailleurs, je crois que vous n'allez pas au Canard, vous n'allez jamais aux conférences de presse et des choses comme ça.
Oui, c'est pas. Moi, je crois que c'est la règle de base du journaliste, c'est d'aller voir les gens. Donc, effectivement, maintenant, la difficulté
dans
le métier de journaliste, c'est ce que je disais, c'est d'avoir accès aux gens. On prend un truc, je ne sais pas, vous voulez aller voir un joueur du PSG. Ça va être extrêmement compliqué d'aller voir un joueur du PSG. Si vous ne passez pas par les communicants, etc., etc., vous n'y arriverez pas. Ou alors il faut le choper dans une boîte de nuit à 4h du matin, et encore, là il faudra faire en sorte que le garde du corps vous
mette... laisse passer.
Voilà.
Et puis la note de frais, bonjour.
Et la note de frais, bonjour. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout est contrôlé par les communicants. Donc il faut la moindre occasion, y compris si Cahuzac vous invite à déjeuner, moi je pense qu'il faut aller déjeuner avec Cahuzac. Pourquoi ? Parce que c'est voire l'unique façon de rentrer en contact avec Cahuzac.
Ça ne donnait absolument rien. Il faut y aller
pour poser des questions. Il faut y aller pour voir ce qu'il a à dire. Il faut y aller. Et après se pose le problème de savoir ce qu'on en fait. Si on n'en fait rien, il y a un problème. On est juste allé déjeuner comme ça. Ça pose problème. Si on n'est pas honnête dans son récit, ça pose problème. Mais ce n'est pas la même question que la question d'aller y voir. Un journaliste qui ne va pas y voir et qui s'interdirait d'aller voir tel ou tel parce que tel ou tel n'est pas dans sa sphère de pensée, etc., ce qu'on disait tout à l'heure,
par exemple, c'est tous les voyages qui ont été organisés.
Il faut les refuser, les voyages, il y a eu un article dans le Canard
sur les voyages en Tunisie, etc.
C'est souvent sous prétexte que les journalistes rencontrent les gens, rencontrent les hommes d'affaires, rencontrent des hommes politiques, etc.
Oui, mais ça vous êtes en mesure. Si, je ne sais pas, un chef d'entreprise vous dit « je vous invite en voyage pendant 4 jours, un safari au Kenya, et là, vous avez le temps de me voir, on va pouvoir discuter. » Là, la moindre des choses, c'est de lui dire non. Lui dire si vous avez vraiment envie de me voir, on se donne rendez-vous à Paris, dans votre bureau. Voilà, ça, c'est des choses... Mais un déjeuner professionnel, ce n'est pas la même chose, encore une fois, qu'un
voyage.
Non,
mais parce qu'après,
voilà, faut essayer de ne pas être trop schématique.
Voilà.
Et la rédaction idéale, c'est quand même la rédaction dans laquelle il y a les gens qui vont aller bouffer avec Cahuzac et qui vont établir un contact régulier. Mmh. Et il y a aussi, à côté, les voyous qui vont essayer de piquer l'info qu'on ne veut pas leur donner, qu'on appelle en général...
Les voyous
Oui, les voyous, c'est-à-dire le service des informations générales. Mmh. Et je le sais, puisque c'est le service dans lequel j'étais au Monde, et très heureux d'y être. J'étais très heureux, j'ai passé 10 ans au Monde avant de faire la chronique télé, j'ai passé 10 ans aux infogénés, c'est-à-dire dans le service des voyous, dans le service de ceux qu'on n'invite jamais à déjeuner parce qu'ils ne sont pas intéressants, et de ceux qu'on appelle quand il y a un gros coup, parce que justement, on a besoin de voyous.
De voyous, d'accord.
Non, c'est vrai qu'on peut se poser des fois la question, est-ce que les Échos vont sortir des papiers sur des scandales financiers de grandes entreprises qui, par exemple, sont sponsors, enfin annonceurs.
À votre avis. Non, j'adore les questions que vous posez. Elles sont,
voilà. À votre avis. Non, bon, c'est déjà la réponse. Ouais. Hein. Non, mais justement. et l'idée des déjeuners, ouais, etc., où tout le monde, bon, voilà, on peut se poser la question.
Oui, mais le problème du déjeuner, c'est superfétatoire.
Non, mais c'est sûr.
Pourquoi les Échos vont rien sortir? Parce que son actionnaire principal, voilà, c'est Bernard Arnault, parce que il a de la publicité, parce que.
On en arrive à l'autocensure des journalistes.
Mais voilà, mais c'est pas parce que vous allez déjeuner avec un type que vous êtes dans la compromission. Vous allez entendre ce qu'il dit et surtout vous allez lui poser des questions que vous avez envie de lui poser.
En revanche, c'est à partir du moment où tu vas aller déjeuner avec quelqu'un, tu vas apprendre des trucs et tu vas pas le dire.
Ah, bien sûr.
C'est à partir de ce moment-là précis que tu es dans la compromission.
Bien sûr, le journaliste.
C'est à partir du moment où tu es ligoté par un truc que tu as appris et que pour une raison ou pour une autre tu peux pas dire, c'est là où commence la perversion.
Mais on est d'accord.
Tout le monde va être mis d'accord par un expert, puisque ce soir on a comme à chaque émission. Non, l'autre fois c'est une interview imaginaire, mais là on a. C'est bien. Bienvenue in the world des experts, vous allez voir. C'est un expert. Là, au niveau journalisme, ça bat à plate couture absolument tout le monde. Alors, quitte-toi, qui est ce soir notre expert média?
Alors, ce soir, c'est un vieux routard du métier, un grand journaliste, comme on dit, incontournable, un analyste politique hors pair qui officie sur la chaîne cryptée Nanal+. Je veux parler de monsieur Jean-Marie Attati. Bonjour, Jean-Marie Attati.
Et bonjour, monsieur Kipépois.
Alors, la presse va mal, hein, vous le dites, mais vous avez des théories précises sur ce sujet?
Absolument! Il n'est pas très compliqué de savoir pourquoi la presse va mal. Il suffit d'observer deux choses.
Oui.
Internet et Internet.
Là, ça n'en fait qu'une, mais vous pensez que c'est Internet qui assassine la presse?
Mais bien entendu, bien entendu. Regardez le disque laser. Regardez le disque vidéo. Regardez le cinéma. Regardez les chatons. Tout est tué sur Internet, hein? Par Internet. Et ce n'est pas une loi Adopi qu'il faudrait, mais au moins trois. Par contre, et là, je tiens à le dire droit dans les yeux des auditeurs qui nous écoutent avec leurs oreilles, il faudrait des politiques qui aient le courage, je dis bien le courage, de s'atteler à la tâche, monsieur, quittez-moi. Et ce n'est pas Pépère à l'Élysée qui le fera, ça non. Hein.
Mais vous voudriez quoi? Les gens ne piratent pas les journaux sur le net, donc j'arrive pas bien à vous comprendre.
Déjà, il faudrait interdire les faux journaux sur le web, comme Mediapart, qui décrédibilise la vraie presse sérieuse, imprimée avec de l'encre, tu vois, de la vraie encre sur du vrai papier. Mediapart, ce n'est pas la presse, hein, on le sait. Elles sont où les preuves? Hein? Elles sont où les preuves? Les preuves que c'est un vrai journal, déjà. Hein? Il est sur un écran, il n'est pas sur un papier. Et vous avez les preuves que Mediapart, c'est de la presse, monsieur Katata? Quand on n'a pas de preuves et quand on est un vrai journaliste, on ne publie pas, et c'est tout. Hein? Alors, qu'on arrête de dire que Mediapart, c'est de la presse. En plus, on ne publie pas sur le web, qui est, comme chacun le sait, un ramassis de tout et n'importe quoi, des pédonazis. D'ailleurs, les politiques courageux fermeraient le web, tout simplement. Ils le fermeraient, hein, les politiques.
Fermer le web?
Absolument, monsieur quittez-toi, enfin bon. Je veux dire, on ferme la porte à clé, on jette la clé au fond du puits, quoi. Comme ça, on retrouverait du vrai journalisme, avec des vrais journalistes et des gens bien informés par des professionnels qui savent ce qu'ils disent.
D'accord. Donc, votre expertise sur la presse, c'est qu'il faudrait fermer le web. Le problème des contenus, de confiance du public, d'influence, de qualité, de manque de courage, tout ça, ça n'a rien à voir.
Je trouve que vous allez un peu loin, là, monsieur, quand même, déjà. Vous avez une carte de presse, ça, pour me poser des questions comme ça? Vous avancez des accusations graves, vous avez les preuves de ce que vous avancez, vous...
Rien à faire, on va rendre l'antenne. Hein.
Non mais attendez, j'ai des choses à dire, moi. J'ai des preuves, plein de preuves.
Oui, à vous cognac, j'ai, comme il disait avant.
Eh bien,
bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Il y avait pas mal de points qu'on voulait aborder, mais on est déjà à 20h et donc on ne pourra pas. J'aimerais remercier Daniel Schneiderman de Arrêt sur Image, sur le web, justement.
Arrêt sur Image.net.
.net, donc, vous pouvez vous connecter. Jean-Michel Thénard du Canard Enchaîné, qui est le Canard Enchaîné dans les kiosques, sur le vrai papier avec de la vraie encre.
Et le canardenchaîné.fr.
Ah oui, mais
sur
bon, web. C'est
juste. Et sur Internet, et sur, quand d'ailleurs?
Jamais.
Sur Internet, on est déjà sur Internet.
Ouais,
on
c'est a, vrai. Ouais. Il y a un petit site.
Mais vraiment sur Internet que je vous recommande. On est sur Twitter, puisque c'est, je vous c'est rappelle vrai. Que c'est sur Twitter que canardenchaîné a annoncé ouais. les aveux de Cahuzac.
Il y a quand même un tweet par trimestre.
Avant tout le monde.
Un tweet
non,
par
non,
trimestre.
Non, vous êtes dur.
Ils
sont passés à un par mois.
Un par mois, un par mois. Allez, allez.
Non, il y a un tweet par semaine pour annoncer ce qu'il y a dans le canard. Et souvent deux, d'ailleurs. Voilà. Et puis, il y a les dossiers du canard sur l'exil fiscal, dont je vous parlais tout à l'heure, 6 euros dans tous les kiosques.
Okay. Bah, génial. Voilà. Merci à tous. Merci au public venu nombreux, chaleureux, intéressant. On peut continuer de toute manière avec le public. C'est une possibilité. Donc, restez en ligne à l'écoute. Nos invités, eux, doivent partir. On les remercie encore une fois. On peut les applaudir.
Et merci à vous.
La prochaine émission, on va continuer, mais la prochaine émission, on vous en parlera tout à l'heure. Je pense qu'elle réunira, à mon sens, beaucoup de monde. On met un petit peu de musique, le générique de fin, un petit peu de musique et on revient. À tout à l'heure, merci à vous.
Dans ce contexte des révolutions arabes, on en vient maintenant à cette polémique. La France a-t-elle permis au colonel Kadhafi d'identifier et donc d'interpeller des opposants au régime ?
Eagle, c'est le nom du logiciel qui fait polémique. Il est français, mais surtout il a servi à espionner des opposants libyens.
Société qui a une spécialité que je donne, nous appelons Network Intelligence, c'est-à-dire qu'en fait on extrait l'information des réseaux IP pour alimenter les applications.
Des individus se revendiquant au nombre d'Anonymous ont accordé des interviews aux médias, faisant croire au public qu'ils étaient susceptibles de donner de la voix à notre collectif. Ils s'arrogent le droit moral et physique de parler au nom d'Anonymous, alors qu'ils ne connaissent même pas, en général, le fonctionnement, les détails techniques, l'histoire, ainsi que les principes fondateurs du mouvement.
On va parler un peu d'objectivité journalistique, de gratuité aussi de l'information, voilà, de choses comme ça, de transparence aussi, voilà. Avec Fabrice Eppelboin, quittez-toi, sûrement encore quelqu'un d'autre, bah peut-être Anna, si je vais aller fumer quelque chose dehors avec Anna Ravix d'ailleurs. À tout à l'heure.
with your old lady at the tilt. I got a 90 day extension and I'm filled with guilt from things done and seen. The water from a bottle, mine from a canteen. At night I hit a shot, swing for my light sleeper. The cost of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, they to him, I'm just a pawn. So he can advance. Remember when I used to dance? Man, all I wanna do.
On est revenu Radio Reflet de nouveau après une petite pause. Pour cette deuxième partie, ça va être un micro ouvert et un débat avec le public, avec quelques nouvelles personnes autour de la table. Pour ma part, je m'en vais. Et donc, je laisse le maître de cérémonie ce soir, Quittez-toi, avec Fabrice Épeloin en face de lui.
MC Quittez-toi, donc.
MC Quittez-toi et FB.
Bonsoir.
Monsieur
Boin.
Voilà. Et donc, Paul Richardet aussi de la cantine qui va prendre ma place. Bah écoutez, bonne soirée à tous. Et le podcast, donc Bluetooth, si tu nous écoutes, au cas où tu nous écoutes, le podcast, c'est dans 3 jours et pas dans 3 mois. Ouais. Merci,
c'était
bonsoir.
Un message personnel de Draffeur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le...
Il était un peu occupé, il a eu des petits soucis, Bluetooth. Bon.
Hein ?
Non, il a été un peu occupé aussi, il a eu
de
l'occupation, donc il était un petit peu en retard.
On a eu notre premier procès reflet, donc on attend les suivants avec Amésis, Cosmos, je ne sais pas. Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui a des choses à dire ou des questions à poser sur la presse, le journalisme
ou n'importe quoi.
Ou n'importe quoi.
Sur toi, j'en prendrai un au hasard, je
le
forcerai à poser une question.
On a Amicalement qui est là.
Moi, je voulais juste poser une question. Donc là, il y a beaucoup de journalistes. Comment ils perçoivent sur Internet cette nouvelle confrontation qu'il y a entre le journaliste qui publie un article, pardon, et les commentateurs derrière, qui viennent parfois agressivement, en tout cas compléter, contredire, etc. C'est-à-dire, c'est plus tout le même rapport avec un papier journal lu chez soi.
Alors moi, je peux te faire part de mon expérience personnelle. J'ai eu la chance de quasiment toujours écrire dans des endroits où l'échange avec les commentateurs était constructif, intelligent et dérapé quasiment jamais.
c'est-à-dire Read Write et puis maintenant Reflet. C'est pas du tout le cas dans l'essentiel de la presse. Quoi. Il n'y a guère que Rue 89 qui a réussi à faire quelque chose avec les commentaires. Le reste du temps, et de plus en plus, ça affiche effectivement soit des approbations ou des désapprobations de ce qui a été raconté dans l'article et de façon péremptoire et pas constructive, soit des attaques directes envers le journaliste ou les journalistes en général. Et ça, de plus en plus. C'est, notamment sur Facebook, c'est affolant à quel point aujourd'hui, tous les liens sont accompagnés d'une remise en question du média qui le porte, des gens qui y écrivent.
Mais ceci dit, ça rejoint ce qu'on expliquait au départ, c'est cette espèce de désaffection entre ce nouveau public, cette nouvelle génération du public et la presse. Hein.
Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une nouvelle génération. À mon avis, des vieux commencent à réaliser qu'effectivement, ils ont de la presse de merde. On peut être vieux et pas forcément très con. Nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment jeunes.
Non.
Et il y a vraiment un phénomène qui est de plus en plus massif. On l'a mesuré à Sciences Po il n'y a pas longtemps à travers une étude. Ça montre clairement une désaffection dont le schisme n'est pas du tout sur vieux-jeunes. La désaffection, elle touche toute une partie de la population face à un petit groupe, alors qu'il a été qualifié de bobo dans l'étude du Servipof, mais on peut remettre en question cette terminologie bobo, mais grosso modo, middle upper class et parisien, qui n'a pas cette remise en question de la presse, et tout le reste de la population, c'est catastrophique. Les taux de confiance s'effondrent, on est en dessous parfois de 20% sur certaines catégories, alors, tout âge confondu.
Ceci dit, il y a quelque chose qui est frappant, c'est, en tout cas pour les gens qui sont sur ce réseau depuis un moment, je vais les prendre eux comme exemple, mais on peut l'élargir, c'est qu'on se rend compte que souvent, les articles qui parlent d'un sujet qu'on connaît, alors en l'occurrence voilà, les geeks, etc., tous les gens qui sont un peu sur Internet, se rendent compte que ces articles sont porteurs d'un certain nombre d'erreurs hein, ou de non-compréhension de l'environnement. Donc quand ils voient ces erreurs, ils se disent « bon, ben, ils racontent n'importe quoi ». Le journaliste.
Ce qui est souvent le cas.
Et donc, du coup, ils élargissent et ils disent « bon, ben, si ça se trouve, c'est la même chose en économie, en politique, etc. » Et ils remettent donc en question la crédibilité de la presse. C'est un souci.
Pas vraiment, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils apprennent à croiser une information, à vérifier une source. C'est plutôt sain. C'est plutôt sain qu'une population apprenne à faire ça. C'était pas sain de laisser cette fonction uniquement dans les mains des journalistes. Après, le problème, c'est que dans les journalistes, il y a tout et n'importe quoi. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fréquente ce milieu, sans en être vraiment. J'y ai trouvé des gens qui sont très très pros sur les domaines dont ils traitent hein, et qui font un vrai travail utile avec une vraie valeur ajoutée. Et puis j'ai trouvé des tonnes de généralistes qui sont spécialistes de tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Alors, pour passer à autre chose.
Ça, c'est aussi une évolution de la presse, c'est-à-dire que tu as dans ces, on n'a pas parlé de ce sujet parce qu'on n'a pas eu le temps, mais tu as un mouvement qui est apparu avec ces nouveaux actionnaires dont on a parlé tout à l'heure. C'est que ces gens-là attendaient une rentabilité de cette nouvelle activité, à peu près similaire à celle qu'ils avaient dans d'autres domaines, donc en l'occurrence dans le luxe, dans la vente d'armes, etc. Et c'est impossible. Et notamment, ils ont inséré dans la presse des cost killers, des gens qui sont des monsieur Excel et qui vont réduire, couper des dépenses. Et les premières choses qui ont été coupées, enfin pour moi, de ce que j'ai pu voir dans la presse, c'est par exemple le service de doc. Quand j'ai commencé, on choisissait un sujet, on allait en conférence de rédaction. En conférence de rédaction, il y avait quelqu'un de la doc qui était là. Et donc on annonçait son sujet, et deux heures après, sur le bureau, il y avait à peu près 80 cm de haut de photocopie de tous les articles dans toute la presse qui étaient parus sur le sujet qu'on allait aborder. Donc première chose avant d'écrire, c'était de voir ce qui s'était dit dans les années passées sur ce sujet. Ça permettait de ne pas dire des bêtises ou de voir un peu mieux l'éventuel storytelling. Et ça, c'est quelque chose qui a à peu près disparu, puisque aujourd'hui, il suffit, les journalistes n'ont qu'à aller sur Internet, et puis
Wikipédia, et hop.
Et puis ils regardent, quoi. Hein, et puis Wikipédia et tout ça.
Oui, c'est le rendement du journaliste qu'on a pressé comme un citron de façon hallucinante.
Voilà, on lui a demandé d'être plurimédia, donc de savoir, de faire un article dans le journal. Il va faire aussi un article peut-être un peu plus court pour le web. Il va faire éventuellement un son. Qui va monter lui-même pour le mettre aussi sur Internet. Bref, on lui demande de faire beaucoup de choses et donc il a moins de temps pour creuser ces sujets. On a aussi coupé dans les coûts.
On va arriver à une conclusion qui est que
correcteur, etc. Donc,
c'est pas vraiment la faute des journalistes. Il y a un système autour des médias qui effectivement tend à la rentabilité et qui est pas du tout compatible avec ce que Jean-Marc Ayrault appelait des médias indépendants. C'est la machine qui déconne.
Ouais.
Après, il y a plein de journalistes qui sont complètement pieds et mains liés dans la machine.
En fait, c'est pas forcément le problème des médias. Je pense que moi, j'ai le même problème avec mon supermarché. Oui. C'est-à-dire que, en fait, je me rends compte que...
Tu veux dire que ton supermarché raconte des trucs faux ?
Non, en fait, il me vend toujours le même truc, tu vois, qui est un truc normal, standardisé, que j'aime bien, mais que j'aime pas vraiment, qui a un prix qui est bien, mais qui est un petit peu cher. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les horaires que j'ai, je bouffe toujours les mêmes 50 produits, dont la moitié est dégueulasse, quoi. Et tout ça parce qu'en fait, c'est un problème de rentabilité, de production, etc. En fait, moi, je pense que c'est relativement voulu, enfin, c'est relativement stratégique. Et si je veux maintenant manger bien, je suis obligé d'aller trouver le petit mec bio. Alors là, j'ai trouvé des Turcs qui font des trucs très bien, pas cher, etc. Mais donc, j'ai l'impression qu'en fait, les grands circuits produisent naturellement les mêmes effets, quoi. Et que finalement, il y a une espèce d'industrialisation et de rentabilité des produits et des services. Et dès lors que tu veux commencer à rentrer dans un truc un peu détaillé, fin, technique, eh ben, il faut faire appel à des experts, des consultants, des mecs qui coûtent très cher par jour et qui sont réservés à une certaine partie. Si tu veux optimiser tes impôts, si tu veux, tu peux le faire, mais qu'à partir d'un certain niveau.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher, bon. Et là, on travaille un peu aussi sur la problématique de politique, enfin, comment faire rentrer nos sujets techniques et se rapprocher du politique, et on se rend compte que très rapidement, ça rentre dans les trucs hyper compliqués, quoi. La réglementation des réseaux, tout ça, ça devient une affaire d'experts. Et on a perdu enfin, ce côté un peu par grand public ou pédagogie, et qu'en fait, aujourd'hui, l'intelligence technique et le savoir, il est quand même concentré dans les mains d'un petit nombre, quoi.
On a aussi dans les évolutions de la presse que moi j'ai pu observer, je vais vous raconter une anecdote, comme ça ce sera plus parlant. Je travaillais à la mise en ligne du journal dans lequel je travaillais. On montait une plateforme d'édition électronique, c'était vers 94-95. Et donc je travaillais en binôme avec le directeur du journal. Donc lui en fait il ne s'occupait pas de la rédaction, il s'occupait du porte-monnaie, donc des comptes. Et un jour, on se fait une réunion sur l'évolution du projet, et triomphalement, il me dit « Tu sais pas, j'ai compté pendant les 15 derniers jours tous les signes produits par chaque journaliste, donc je sais qui produit quoi en termes de volume. » Je lui dis « C'est très intéressant, et alors il y en a qui foutent rien, c'est incroyable, ils produisent quasiment pas. » Je lui dis « Oui, mais pour toi, pour ton journal qui était vendu à l'époque 10 000 francs par an en abonnement, qu'est-ce qui est plus intéressant ? Un type qui va copier-coller des dépêches pour faire des colonnes de brève et qui va faire 20 000 signes dans la journée, tous les jours, ou le gars qui, pendant 15 jours, n'écrit rien, pas une ligne, mais qui ramène un scoop à la fin, même si ça fait un feuillet et demi, c'est peut-être plus valorisant pour ton journal. » Et comme c'était un gars intelligent, il a compris et il s'est rendu compte qu'il avait compté des signes pour rien pendant 15 jours, et donc il a mis tout ça déjà dans un tableur. Mais finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a moins de journalistes pour faire de l'enquête, aller chercher de l'info, etc. Parce que ça coûte cher. Ça. Et donc, on a des gens qui vont faire de la dépêche, des jeunes qu'on embauche à des tarifs ridicules ou qui sont complètement précaires, CDD, reconduits, etc.
Alors c'est clair qu'il y a un lumpenprolétariat du journalisme qui est vraiment impressionnant et qui ne se voit pas du tout. Quand on ne connaît pas le monde des médias, on ne se rend pas compte du nombre de prolos qu'il y a là-dedans. C'est de l'intellectuel prolo, mais c'est des niveaux de vie de prolos.
Le journalisme n'a jamais payé terriblement.
Non, mais à ce point-là, quand même. C'est vraiment vivre en permanence dans une espèce de précarité, y compris après 5-10 ans d'expérience professionnelle, sans le moindre espoir ou presque d'en sortir. Enfin, c'est quand même un sacré sacerdoce. Et effectivement, avec cette contrainte qui est que si on met son nez là où il ne faut pas le mettre, on se crame, mais immédiatement, absolument immédiatement. Donc ça donne la presse qu'on a aujourd'hui, avec ce que j'appelais tout à l'heure des canaux de sauvetage, quitte à ce qu'ils soient de très jolis canaux de sauvetage. Hein. Le canard enchaîné, c'est un riche canot de sauvetage. Mediapart, c'est une espèce de parc naturel pour espèces protégées, mais c'est les seuls. Et Arrêt sur Image, bien sûr, et on va rajouter Charlie et peut-être un ou deux autres, mais on va les compter sur les doigts de la main. Ça va nous faire quoi, 200 journalistes en France qui font vraiment un travail qui aide en termes démocratiques. Et si mes souvenirs sont bons, ça nous fait 55 ou 56 000 cartes de presse qui sont des gens qui font circuler de l'information, quoi. Donc une fonction qui s'apparente à la communication, ce qui est quand même super inquiétant pour une démocratie.
C'est assez intéressant de voir les quand on y a accès, de voir les communiqués de presse des entreprises ou des tous les gens qui ont besoin de communiquer, et de voir les paragraphes entiers qui sont copiés-collés. En fait, les articles sont déjà rédigés par les communicants, et on les retrouve, en tout cas, des paragraphes entiers dans les journaux. Pour moi, c'est très inquiétant.
Et les éléments de langage des politiques que tu retrouves tels quels dans les journaux, sans recul ni rien du tout.
Ce qui fait aussi qu'au bout du compte, tout le monde lit la même soupe, quoi, et puis finit par avoir une espèce de décalage, de confiance vis-à-vis des médias, parce que finalement, une perte de confiance, une perte de crédibilité, quoi. Mm-hmm. Alors après, la finesse, moi j'ai essayé de travailler ça, parce qu'on regardait un petit peu comment faire communiquer sur les petites entreprises un peu innovantes, pour qu'elles pénètrent tout ce gros machin, parce que c'est très difficile pour une petite entreprise d'être identifiée dans le marché des médias, parce que moi j'ai plutôt tendance à appeler ça un marché. Et comment pénétrer ce marché et faire passer l'information qu'ils ont une petite brique qui est maligne, enfin, etc. Bon. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait des journalistes qui venaient nous voir, mais pour eux. C'est-à-dire, ici, on était un club un peu pour les journalistes parlent aux journalistes. Mais ils n'arrivaient pas à expliquer, à communiquer dans leurs médias sur les finesses des petites startups et des choses comme ça. Ça ne passe pas. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont filtrés? Est-ce que ça n'intéresse pas le lecteur? Je ne sais pas. Mais si on regarde, par exemple, en France, les médias qui parlent du monde de l'innovation et des startups, il n'y en a pratiquement pas.
Plus.
Pratiquement. Voilà, il y avait Wired. En Angleterre, il y a des choses, il y a des grands sites, même au niveau que des sites. Hein, on se rend compte. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une main cachée? Mais c'est étonnant, parce qu'il y a quand même c'est un métier, il y a quand même un écosystème qui est puissant, il y a de l'argent.
Non, puissant, on ne peut pas dire en France. La puissance économique de l'écosystème de l'innovation en France, c'est essentiellement des fabricants de réseaux. C'est plus Iliad qu'un Google ou un hypothétique Facebook français.
Tu as de l'information, tu as de la connaissance, tu as du savoir. Si tu veux, c'est un écosystème qui existe quand même, hein, qui n'est pas, qui est pas pire que les mecs qui pêchent à la ligne. Hein.
Ouais.
Et j'ai essayé de. Alors, donc, j'ai parlé à des journalistes. Il m'a dit, j'ai pas le temps de faire un papier, je comprends rien. Bon, écoute, on va te payer. Ah non! Non, payer un journaliste pour qu'il puisse bien travailler, c'est pas possible. C'est-à-dire, en fait, non, il n'y a pas le droit de.
On retombe
dans un truc où le journaliste n'a pas le temps, ou n'a pas la compétence, donc il va compiler ce qui existe déjà ou faire un copier-coller de documents produits par des communicants, c'est-à-dire qu'il n'a même pas accès à la personne. Et puis, par contre, on lui dit, écoute, moi, je suis prêt de te payer 3 jours où tu fais ce que tu veux, tu fais le job, mais tu as le temps de travailler la question. Non, là, l'éthique ne le permet pas. Donc, bon, tout ça me semble un peu étrange, quoi, comme système.
Oui. Alors, je voudrais juste raconter un truc qu'on n'a pas pu placer dans l'émission tout à l'heure avec les deux invités. Il y a un truc qui m'a interpellé. J'ai traduit il y a pas très longtemps, avec l'aide de pas mal de personnes, la déclaration de Manning, ce militaire américain qui est actuellement traîné devant une cour martiale, hein, et qui a fait fuiter en fait tous les documents qui ont fait la célébrité de WikiLeaks. Et c'est assez intéressant, parce que sa déclaration préliminaire devant les juges, dedans, il explique qu'il avait contacté le Washington Post et le New York Times. Et ce qui est marrant, c'est qu'aucun des deux journaux n'a donné suite. Alors, ça finit chez WikiLeaks.
C'est dommage pour le Washington Post, quand même.
Et c'est très dommage pour ces deux journaux. C'est marrant, parce que dans les détails, quand il explique, alors un des journaux, il est tombé sur une dame qui lui expliquait que oui, il fallait d'abord voir les documents, que ce serait traité par les rédacteurs en chef, qui éventuellement décideraient si vraiment c'était intéressant ou pas, enfin, que le process était compliqué, tout ça, machin. Bon, donc lui, il voulait aller vite. Et pourtant, il avait entre les mains quelque chose de très intéressant. Mmh. Et le deuxième journal, il y avait un numéro de téléphone où on pouvait appeler pour signaler qu'on avait des infos à communiquer. Donc il a téléphoné, il est tombé sur
un serveur vocal qui lui a dit appuyez sur 2, si votre sujet concerne tel truc, appuyez sur 3, etc. Et au bout de 10 minutes, il était perdu dans le serveur vocal et donc il a laissé ses coordonnées et expliqué ce qu'il avait et on ne l'a jamais rappelé. Donc c'est marrant parce qu'on se rend compte que du coup, il y a un vrai problème aujourd'hui avec la presse traditionnelle qui n'arrive plus à...
Oui,
être à l'écoute, en fait.
Il y a une vraie solution avec Wikileaks, enfin le concept Wikileaks, les offshore leaks faisant partie de la même école.
On peut discuter de ça parce qu'il y a un problème pour moi. Je pense que Wikileaks a muté. Offshore leaks, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint une grosse problématique de la presse. C'est-à-dire que ce que tu lis dans la presse, c'est passé par un filtre.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a un choix dans l'information, on ne peut pas tout traiter, donc on décide de ce que l'on va traiter, et c'est en fonction des hobbies ou des plaisirs.
Dans Wikileaks, comme les offshore leaks, on a bien vu qu'effectivement la presse nationale, alors à l'époque de Wikileaks, ne parlait pas de Bouygues au Kyrgyzstan ou au Kazakhstan, je ne sais plus, et à l'époque des offshore leaks, étouffait ou faisait tout pour minimiser le fait que quand même il y a le Crédit Agricole et la BNP qui sont dans les îles Caïmans, oui. Ce qui fout mal parce que l'État est quand même actionnaire de ces banques.
Mais pourquoi ces nouveaux canaux comme Wikileaks, parce qu'il était d'ailleurs dans l'interview imaginaire, pas si imaginaire, pourquoi cette retenue de l'information, pourquoi choisir un certain nombre de journaux, alors pourquoi, parce que ça fait plus parler de Wikileaks ou plus parler du groupe qui est derrière Offshore Leaks, de journalistes. Ça restreint en fait la diffusion de l'information, c'est-à-dire que le public est trop bête pour se faire sa propre idée. Pourquoi ne pas monter un site et
toi-même tu as fait de l'investigation financière, donc tu sais bien qu'effectivement c'est super compliqué comme
c'est
documentation,
compliqué parfois, ouais.
Que ça demande vraiment une expertise, en plus en France ça demande une expertise économique, ce qui est
rare. Pour les offshore leaks, mais franchement pas pour les câbles diplomatiques.
Pas pour les câbles. Les câbles diplomatiques, effectivement, c'est à la portée de n'importe qui. Mais en même temps, ce qui s'est passé avec Wikileaks, finalement, n'est pas si mal. C'est-à-dire une première époque, une époque où on a connu Wikileaks, au moment des câbles, où on passait par de la presse qui filtrait, qui disait pas tout, et puis les documents se sont retrouvés accessibles à tout le monde. Et donc les éléments qui n'étaient pas encore sortis, je pense à l'affaire Microsoft, par exemple, qui était sortie avant, mais qui a rebondi parce que justement elle s'appuyait sur un câble Wikileaks. Tout est disponible au public aujourd'hui. Si vous cherchez Pfizer dans la base de données Wikileaks, vous allez trouver une bonne douzaine de documents qui vont vous faire dresser les cheveux sur la tête. Tout est public, tout n'est pas traité dans la presse, parce que c'est d'énormes annonceurs, donc il faut aussi comprendre la presse. Mais tout est public. Les offshore leaks, j'imagine bien que tôt ou tard, ça va finir par être réalisé de façon publique. C'est une question de temps.
Je ne suis pas sûr.
Oh, si, si, si. Je suis assez confiant sur le fait que tôt ou tard, ça finira en torrent quelque part sur The Pirate Bay.
On verra.
Parce qu'il y a 320 mecs. Moi, j'ai pas lu la liste de tous les mecs qu'on
trafiquait. C'est énorme. Ouais,
en fait, moi, je suis allé sur Le Monde. Alors, on me dit, alors il y a des mecs qui ont trafiqué. Il y en a 350. Ils nous ont dit, c'est super. On va rigoler. Ça fait un petit peu pour en parler au bistrot. Puis alors, je regarde. Alors, ils en citent 5, 6. Puis après, on va vous en dire. Il faut payer. Déjà, il faut payer. Et en fait, j'ai pas vu la liste quelque part des 350 fraudeurs qu'ils ont identifiés. Alors, là aussi, on peut se poser la question, c'est que si un certain modèle économique des médias, ce serait pas finalement le maître chantage. D'être maître chanteur.
Alors ça, figure-toi que c'est le modèle économique.
Je sais que là, je suis chez Reflet, donc je peux me lâcher. Je peux dire des choses qu'on n'ose jamais dire. Mais moi, je me rappelle une affaire très très ancienne. Enfin bon, c'était il y a prescription. Et j'ai su que les journalistes avaient l'information. Les mecs me disaient, mais moi j'en ai plein mon tiroir. J'ai dit, donc qu'est-ce que c'est que cette information grise? Alors est-ce que c'est un fantasme, hein? Je ne sais pas.
Non, pas du tout, mais on rejoint le truc qu'on a survolé tout à l'heure qui est le off, c'est-à-dire que les contacts des journalistes mettent de temps en temps des balises en disant ça, c'est off. C'est-à-dire que le journaliste n'a pas le droit. De le dire. Donc, du coup, on retrouve ce genre de choses dans la page 2 du Canard toutes les semaines, mais effectivement, il s'engage à ne pas le dire parce que sinon, a priori, cette personne ne lui parlera plus. Et c'est effectivement un gros souci pour les journalistes.
Et puis à côté de ça, il y a des choses que tu sais, mais que tu ne peux pas typiquement étayer devant un tribunal ou alors de façon très risquée d'un point de vue juridique, donc que tu ne vas pas publier. Mais que tu sais parfaitement. On a l'occasion d'en parler, toi et moi, régulièrement. Tu sais qu'il y a des choses absolument horribles que beaucoup, beaucoup de journalistes savent, Mais de là à l'imprimer et à se prendre l'inévitable procès en diffamation en face et le gagner, c'est loin d'être évident.
L'argument du procès est aussi un souci pour une presse qui n'est pas très à l'aise financièrement. C'est-à-dire que voilà, nous, on l'a vu il y a quelques jours, on a gardé quasiment l'ensemble des dons qui ont été faits à Reflet parce qu'on se doutait qu'à un moment ou à un autre, vu les sujets qu'on traite, on devrait se défendre devant un tribunal et ça coûte très cher. Donc il suffit de faire un procès ou deux ou trois pour que la rédaction commence à être... même d'un journal traditionnel. Tout le monde n'a pas les moyens du Canard enchaîné ou du Monde.
Non, parce qu'il y a pas mal de sources. Enfin, là, récemment, je discutais avec un chef de service d'une administration importante et il me disait on a rendu un rapport au gouvernement, mais ça n'a pas été publié et on le regrette. Donc en fait, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui structurent l'information. Mais cette information ne rentre pas dans le tuyau, elle n'est pas prise en compte, elle ne rentre pas dans un secteur de décision. Et quelquefois, elle est produite par des agents de l'État ou des gens qui travaillent avec notre argent, quand même.
Public adoré, une question ? Jus ?
Oui, deux choses. La première, il y a une expression qui a beaucoup circulé ces derniers temps, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, qui était putaclic. Et moi, je trouve ça pas mal au niveau de la presse, au niveau de la presse web. Le côté justement, vous en parliez tout à l'heure, reprise de dépêche AFP à la chaîne, etc. Moi, il se trouve que quand je suis rentrée en France après 4 ans à l'étranger, justement, je me suis trouvée à bosser dans un média éco en ligne, où j'avais la chance, parmi une équipe de 6 journalistes, d'être la seule qui sortait sur le terrain parce que j'avais un petit JT vidéo tous les 15 jours. Donc j'étais obligée d'aller voir les gens pour les filmer et de faire mon boulot. Il se trouve que les autres dans l'équipe passaient leur temps à faire du copier-coller de dépêches et de communiquer. Pourquoi ? Parce qu'il fallait publier toutes les demi-heures ou tous les 3 quarts d'heure ou tous les je ne sais plus combien. Parce que plus on publie, mieux on est placé dans les recherches Google, et mieux on est placé, plus on peut mieux vendre ses espaces publicitaires, etc., etc. Enfin bon, la merde. Voilà, deuxième chose sur la presse en ligne, c'est la seule branche du métier où il n'y a pas de grille de salaire. C'est-à-dire que télé, radio, presse, écrite, etc., vous avez des grilles pour les pigistes, pour les plein temps, etc. Le web est la seule partie du métier où les syndicats se battent pour avoir des grilles de salaire et où elles n'existent pas parce que les patrons de presse se battent justement pour ce qu'il n'y en ait pas, ce qui leur permet d'embaucher les jeunes à la sortie de l'école, au SMIC voire moins, pour faire du copier-coller de dépêches.
Et voilà. J'ai juste ajouté un détail, c'est que très concrètement, le journaliste qui fait du copier-coller de dépêches,
c'est du secrétariat.
On peut discuter le terme journalisme, mais très objectivement, tu viens nous dire qu'il y a grosso modo 2 plaies sur le journalisme en ligne, il y en a certainement d'autres, mais qui sont le directeur financier et le directeur du Search Engine Optimization. Et il y en a un qui est le directeur financier qui va très rapidement délocaliser tous ces jolis boulots de copier-coller parce que ça coûte
déjà
beaucoup moins cher. Oui, oui,
ça existe en Tunisie. Il y a des fermes de contenu.
Mais il y a aujourd'hui des news mag qui se montent avec des équipes quasi intégralement délocalisées, typiquement dans les pays du Maghreb, où on trouve du bac plus 5 pour le quart du SMIC.
Bien sûr. Ouais. Et dernière chose, je pose une question, est-ce que c'est pas aussi un peu la faute et la responsabilité du lecteur ? Parce que le patron de presse qui a ses copains qui aiment bien jouer avec des tableaux Excel, il s'est aperçu que produire de la merde, ça coûte un peu moins cher que produire du caviar. Visiblement, et que les gens, finalement, ils mangent ça. Pourquoi aller leur refiler du caviar qui coûterait cher à produire ?
On revient au truc du supermarché, là.
C'est le même problème que Findus. Hein. Si vous achetez des lasagnes qui coûtent le quart de la moitié du prix de la viande chez le boucher, c'est que c'est pas du bœuf.
Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire du lecteur et de ce qu'on lui donne à manger. Moi, j'ai tendance à penser que c'est la responsabilité des gens qui produisent l'information de produire quelque chose d'intéressant ou pas. Le lecteur, en fait, il n'a pas le choix. Si tu es une seule et que tu ne vis que dans deux dimensions, tu ne sais pas qu'il y a une troisième dimension qui existe. Tu choisis ce que... Bien sûr. Alors tu peux choisir entre Arte et TF1, tu peux choisir entre Le Canard et 20 minutes, mais tout le monde ne sait pas que Le Canard existe. Non.
C'est, franchement, tu vas dans un café, qu'est-ce que tu trouves ? Tu trouves Le Parisien, tu trouves pas Le Canard. Tu vas chez le coiffeur, tu trouves Voici. Tu trouves pas, je sais pas moi, un journal un peu plus... je sais pas de coiffeur.
T'as du mal à trouver un journal un peu plus, tu vois. Tu trouves pas Voici, tu trouves
un
pas
un peu plus que Voici.
Oui, un peu plus que.
Et Voici, c'est paradoxal parce que pour avoir travaillé dans le groupe qui édite Voici, c'est une forme d'écriture très particulière. Ils sont formés à écrire de manière très très synthétique avec des phrases très très bien tournées. Et il y a un gros travail sur les légendes. Donc il y a un travail journalistique,
oui,
derrière.
Il y a une formation juridique aussi, parce que vu le nombre de procès qui se prennent dans la aussi, gueule.
Oui, mais ça, ils s'en foutent parce qu'ils vendent suffisamment pour. Voilà. Une autre question ? Alors, un témoignage.
Voilà, donc moi aussi, je suis journaliste. J'ai commencé la pige il y a 4 ans à peu près. Et j'ai passé, par exemple, la première année, j'ai fait le calcul, j'ai gagné 70 euros par mois en vendant mes papiers. Voilà, donc heureusement, j'avais le chômage. Pendant 2-3 ans, j'ai pu survivre. Là, maintenant, j'ai plus le chômage, mais du coup, j'ai réussi à atteindre une sorte de masse critique pour pouvoir survivre. Mais j'imagine ceux qui entrent dans le métier sans avoir bossé forcément avant et qui n'ont pas, on va dire, un petit pécule pour survivre. Dans ce métier, quand on veut être indépendant ou en tout cas écrire des sujets qui sont intéressants et pas forcément dictés par des rédacteurs chefs qui veulent faire du clic ou du papier, enfin du baronnier, c'est pas évident parce que c'est-à-dire que aujourd'hui, quand t'es journaliste et pigiste et que tu vends tes papiers, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à la fois donc un bon journaliste, chercher des bons sujets, chercher des angles intéressants, et il faut aussi être VRP, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aller vendre tes sujets, rencontrer les rédacteurs chefs, et ça c'est aussi tout un boulot, c'est-à-dire aller avoir si t'as pas de contact, faut savoir comment est-ce qu'on va atteindre le rédacteur chef pour lui vendre son sujet. Enfin, et je suis pas étonné de voir donc tout un tas de journalistes jeunes qui on va dire sont vont faire quelques stages ou des CDI, enfin des CDD, pardon, des CDI, bon. Des CDD dans des boîtes et qui vont, on va dire, faire des sujets sans forcément réfléchir à ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est-à-dire, on leur commande des sujets, ils vont dire ok, d'accord, je vais faire ce sujet-là, et il n'y aura pas forcément de réflexion derrière, et on va encore moins les inciter à vendre des trucs, à vendre leurs propres idées, à essayer de sortir, on va dire, les journalistes déjà bien installés de leur petit système, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe.
Oui, c'est clair. De toute façon, c'est sûr que le rôle de pigiste augmente au fil du temps, puisque les rédactions sont de plus en plus fermées. Et c'est un métier un peu de VRP, c'est-à-dire qu'on est obligé de vendre, au sens défendre ces sujets, en disant « c'est un sujet intéressant ». On n'est généralement pas pris autant au sérieux que si on était à l'intérieur de la rédaction quand on vend le sujet, et finalement on se rend compte que c'est un peu fatigant de devoir convaincre des rédacteurs en chef qui, et c'est pas non plus forcément leur métier, ils sont pas experts sur tous les sujets, mais essayer de les convaincre que le sujet est intéressant, ça peut être un peu fatigant à la longue. Ouais. Une autre question?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais savoir, donc actuellement on est dans une société de l'information, c'est-à-dire qu'il y a 50 ans, quand on voulait rechercher un savoir, on allait lire quelques livres, demander à quelques professeurs, indirectement on cherchait le savoir dans le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la société de l'information, entre guillemets, je me demande pourquoi peu de journalistes, enfin, quand on regarde Le Monde, quand on lit Le Monde ou Le Parisien, on a souvent un article qui est fait par une personne, qui est argumenté. C'est un texte, voilà, qui est fait par une personne. Et je veux dire, actuellement, je me demande pourquoi le journalisme moderne ne cherche non plus à seul mettre en avant quelques arguments, mais à non pas chercher la connaissance, la pseudo-vérité, entre guillemets, avec quelques-uns de ses compères, voire. C'est-à-dire que plutôt que de citer des sources anciennes, pourquoi on ne voit pas des articles faits par plusieurs journalistes en même temps ?
Ça existe, ce qu'on appelle des articles à quatre mains ou à six mains, c'est courant, mais on a aussi une dérive qu'on peut voir, hein, c'est l'appel à des experts. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste n'ose plus, et là on rejoint le concept du journaliste, doit-il être neutre, engagé, objectif ou pas, etc. Et donc on voit que les journalistes ont de plus en plus de mal à affirmer quelque chose sur la base du travail de recherche qu'ils auraient pu faire avant, et qu'ils se contentent en fait de donner la parole à des experts qui sont finalement toujours les mêmes qu'on voit sur toutes les émissions, si vous regardez C'est dans l'air, etc.
D'accord.
C'est valable dans tous les secteurs, c'est-à-dire typiquement si tu prends un secteur comme...
Qui sont des gens orientés aussi.
Tu as des experts qui sont toujours les mêmes.
C'est vrai, mais indirectement, le mauvais côté des experts, c'est que ce sont des gens qui sont conservatistes, entre guillemets. Enfin, je parle du mauvais côté.
Pas nécessairement, souvent. Qui ont en tout cas leur propre agenda.
Puis je me permettre une réflexion. Vous parliez d'écrire un article à quatre mains, entre guillemets, c'est-à-dire à deux personnes. Moi, personnellement, je le vois, enfin, je pense qu'à l'avenir, ça se fera plus que deux personnes.
C'est ce qu'on fait sur Reflet, oui.
Quelles qu'en soient les difficultés. Maintenant, l'idée, c'est que, vous savez, quand un écrivain écrit un livre, indirectement, il écrit quelque chose et c'est comme une réflexion personnelle vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire qu'après tout, les lecteurs sont, au travers d'un bon écrivain, un lecteur se retrouve être un artiste parce qu'il s'approprie la réflexion de l'artiste et la prolonge. Et donc, je me pose la question justement vis-à-vis du fait que vous me disiez que lorsqu'on écrit à quatre mains, enfin, il y a des experts donc qui doivent intervenir, etc. Mais je pense que pour un expert, travailler avec quelqu'un qui n'en est pas un peut permettre justement pour un public qui n'est pas forcément d'un côté ni un méga expert ni quelqu'un de crétin, justement de pouvoir faire la part des choses parce que lui, il va pouvoir s'approprier la discussion d'un expert et de quelqu'un qui ne l'est pas du tout.
Oui, pourquoi pas ?
Mais ça marche très bien l'écriture à plusieurs mains. Hein. C'est quelque chose qu'on fait quasiment, enfin pas quotidiennement, mais qu'on fait sans arrêt à Reflet. Il y a des outils qui sont parfaits pour ça. Et ça permet effectivement d'avoir une myriade de gens qui posent un regard sur un article avant publication, qui vont soit apporter une expertise, soit reformuler des phrases qui sont boiteuses parce que la personne avait le nez dans le guidon, soit faire tout un truc et d'arriver à quelque chose de très très propre.
Ce qui existe aussi dans la presse, hein, il y a quelque chose qu'on appelle le chemin de la copie. C'est-à-dire que le journaliste écrit son papier, qui est relu par un chef de service, qui sera peut-être lu aussi par le rédacteur en chef si le sujet est suffisamment important, entre guillemets. Par des correcteurs, etc. Donc il y a plusieurs personnes qui interviennent sur un papier, même dans la presse classique et les grands journaux. C'est une tradition.
D'accord. Et puis, je suis désolé, hein, je suis arrivé il y a 5 minutes, hein, j'espère ne pas vous embêter. Moi, je porte un projet qui touche à la politique, je ne vous dirai pas le nom, franchement, qu'importe. Ça fait 2 ans que je le porte, je discute avec différents partis politiques. Quoi qu'il en soit, je me demandais pourquoi la presse n'a pas réussi à mettre en place un modèle économique que j'appelle non pas ni marxiste ou capitaliste, mais quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que quelque chose qui à la fois permet à des journalistes de vivre, à la fois à ces gens-là de s'épanouir, on va dire, culturellement, et à la fois d'informer des gens. C'est-à-dire... Si vous voulez, je sais que lorsque Steve Jobs est allé faire chier les mecs de la musique pour imposer iTunes, il les a fait chier. Voilà, il avait un monopole, il les a fait chier, mais il a obtenu le fait que vous pouvez maintenant acheter globalement de la musique pas chère, quoique pour des gens qui considèrent que le libre... Enfin, ensuite, c'est un autre débat. Mais par rapport à la presse, je trouve dommage et dommageable à la fois pour les citoyens et pour les journalistes, et en plus, pour bien évidemment l'industrie de la presse, qu'il n'y ait pas soit... C'est-à-dire, j'embauche un journaliste...
En fait, ouais. le problème, il est simple. Il faut regarder un peu l'histoire des médias et comment ils sont construits économiquement. Et il faut regarder ensuite le fait que le vrai fossoyeur du journalisme et des médias, ça n'est pas Google, c'est eBay. Hein, parce que ce qui rapportait des tonnes de fric aux hebdomadaires et aux quotidiens dans les années 80, c'était les petites annonces. Ils sont fait bouffer par eBay, ils sont ensuite refait bouffer par quantité d'autres acteurs qui chacun ont mangé un bout de la valeur ajoutée qu'apportait la presse. Google, typiquement, il n'a pas volé de valeur économique. Google, il a volé la capacité qu'avait, quand moi j'étais gamin, Le Monde, Libération, Le Figaro, de parler de l'ensemble du monde. J'achetais Le Monde et en lisant 30 pages, je savais ce qui se passait dans le monde. C'était marqué dessus. Aujourd'hui, c'est Google News qui fait ça, c'est pas Le Monde. Et ça ne me viendrait pas l'idée un instant de confier cette mission au Monde. Devant micro, devant micro.
Vous apportez, en fait,
Devant micro, sinon on t'entend pas. Non,
c'est vrai, qu'est-ce que vous apportez aux citoyens? Le problème, non. Il est là. C'est-à-dire que je vous parle de la presse et du modèle économique, vous me parlez de Google.
Non, mais si tu veux, tu t'adresses à des gens qui sont assez particuliers dans la presse.
S'il vous plaît, vous me parlez de Google. Moi, je vous parle de personnes qui sont des influenceurs. Et si je vous parle de ça, si je vous dis influenceur, vous allez me parler de blogueur.
Non, pas nécessairement.
Non, mais je veux dire de fil en aiguille.
Non, pas nécessairement.
L'idée, c'est que Google, c'est une chose. La manière dont vous rémunérez des personnes qui sont capables d'expliquer un savoir.
Mais quel modèle économique? À peu près tout a été testé sur Internet pour la presse.
Non. Ça, c'est complètement faux. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'aux États-Unis, comme en France, enfin comme en Europe, tout comme en Asie, il y a des gens qui posent des startups qui sont vraiment innovantes. Et donc, vous me dites, par exemple, tous les modèles ont.
Non, mais qu'est-ce que vous avez comme modèle innovant dans la formation qui a eu un succès?
Non. On
parle de modèle économique pour la presse.
Je réponds au monsieur, tout a été, etc. Ça, c'est faux.
Je parle de modèle économique pour la presse.
C'est parce que justement, on n'a pas pensé aux choses qui sont intelligentes. Et je veux dire, encore une fois, je me répète, équilibrées. Je veux dire, il y a des journalistes qui sont à Alep, en Syrie. Qui, mine de rien, ne gagne pas 5
000 Vous en avez une derrière vous qui est passée en Syrie.
Oui, certes.
Et on ne peut pas dire que ça lui a rapporté beaucoup d'argent.
Ah, si, la Syrie, mais le Soudan.
Donc la Syrie, ça t'a apporté du fric.
Ce que je trouve...
Intéressant.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est le ratio « je peux crever » et combien je vais, entre guillemets, gagner de l'argent, non pas juste pour gagner de l'argent, mais pour profiter de ma vie parce que j'ai cru que j'allais crever. L'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'après tout, il y a des journalistes qui...
Donc c'est quoi ce modèle économique miraculeux qu'on n'a pas encore testé?
À quoi il ressemble?
J'avais une petite question. Moi, je sais pas.
C'est un modèle qui arrive.
Moi, j'ai une question à vous poser. Traditionnellement, on dit que les journalistes se font bouffer en fait, par les spécialistes indépendants, les blogueurs et les gens qui contribuent de façon gratuite. Et que donc toute cette force... Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'experts parmi les individus et que finalement, ils ont piqué la place des journalistes. Est-ce que vous imaginez, vous, des structures auxquelles des journalistes seraient au service d'une communauté? C'est-à-dire qu'en fait, on aurait une communauté de sachants, d'experts, de spécialistes qui produirait de la connaissance, mais de façon un peu brute, incontrôlée, un peu informelle, et que les journalistes seraient une espèce de mentor ou d'accompagnateur de cette communauté pour structurer ces messages, structurer cette formation et accompagner la communauté. Donc les journalistes sortiraient du média et deviendraient des accompagnateurs de groupes sociaux. Est-ce que c'est une chose que vous voyez, que vous envisagez?
Pour moi, non, mais après,
pourquoi pas moi qui écris autour d'une bande de hackers qui ont très, très, très largement, qui me dépassent totalement d'un point de vue compétences techniques, quelque part, j'ai un peu ce rôle d'être capable de parler à Madame, enfin pas Madame Michu, il ne faut pas déconner, mais d'être capable de parler à des élèves de Sciences Po de sujets qui sont hyper techniques et qui, en temps normal, quand ils lisent les articles un peu pointus de toi, qui t'es toi, ou de Bluetooth, sont largués parce qu'il y a tout de suite une blague avec trois lignes de code que personne ne comprend, à part ceux qui ont quand même du codage dans les mains. Et c'est vrai que c'est une barrière à l'entrée. Donc pourquoi pas un journaliste dont la fonction serait de faire franchir cette barrière et de rendre plus lisible l'information auprès d'un public plus large? Est-ce que c'est un journaliste? Je ne suis pas sûr. Ça ressemble à un secrétaire de rédaction plus qu'un journaliste.
Ça me fait penser un peu à la théorie des châteaux vides, hein, si tu veux. C'est-à-dire que le château fort, il a le pouvoir, il a le titre, il a la noblesse, mais en fait, tout d'un coup, il est gardien de rien. Enfin, il est en autodestruction.
Oui,
et finalement, est-ce qu'il ne faut pas envoyer les journalistes dans le pactiser avec le peuple, si je dirais,
hein,
mano en la mano, et finalement sortir de ces territoires qui sont en pleine déstructuration. Et alors évidemment, le titre changerait, la posture changerait.
Il y a deux problèmes.
Il n'y a pas une ouverture.
On ne sait pas comment les payer. On n'a pas la moindre idée d'un modèle économique. Et deux,
on a une autre question.
Si tu détruis le château et l'édifice médiatique, t'as pas mal de choses qui sont détruites par la même occasion. Et pour l'instant, on cherche plus la stabilité qu'autre chose. Donc c'est pas vraiment au programme.
On a une autre question en public.
Alors ça recoupe un peu, je pense, plusieurs trucs. En fait, c'est pour rebondir sur la question du lecteur. Parce que, je parle pas de... J'ai pas de données statistiques, mais juste autour de mes amis, de mes contacts Facebook, etc. Je sais que d'ailleurs, il y avait un article sur Reflet assez dur, justement, sur le partage Facebook, etc. C'est...
Tu sais que c'est le mal, Facebook, tu es au courant.
Je sais que c'est le mal, mais malheureusement, la plupart des personnes autour de moi et la plupart des personnes utilisent ce média-là comme média de communication, comme média de partage. Et en fait, la question, c'est ce qu'on voit bien sur Facebook, c'est le kikoulol, c'est-à-dire quel est l'appétit en fait du public. C'est-à-dire qu'on parle de comment avoir des meilleurs journalistes, etc., et du problème des pigistes qui copie-collent. Mais c'est vrai que je ressens vraiment ce manque d'appétit de la part même d'amis autour de moi qui ont fait des études.
Il faut peut-être que tu trouves d'autres amis sur Facebook. Parce qu'il y a d'autres endroits dans le monde dans lequel Facebook, il y a un usage totalement différent. Et tu peux
je parle pas de Facebook, je parle juste de j'évoquais Facebook comme un des éléments autour de moi que j'observe à ma petite échelle. Mais c'est le manque d'appétit c'est beaucoup plus intéressant quand on va lire un article, on ouvre un journal, on va plus être intéressé par un article où le titre sera où il y aura sexe ou quelque chose comme ça qu'un article qui va dénoncer Boule ou n'importe quel autre type de vraie information. Et pour moi, c'est un souci, c'est une sorte de fainéantise ou je sais pas, de paresse ou peut-être de peur d'aller vers une information de contenu.
Ça n'a rien de nouveau.
C'est que dans le format économique d'Internet, il y a besoin d'une massification des abonnés, des lecteurs,
pas
etc.
Pas nécessairement, ça c'est un Mediapart, ils s'en sortent très bien avec 70 000 personnes. 70 000 personnes. Enfin, si on regarde le visiteur sur le site Reflet, on est très très largement au-dessus en termes de visiteurs uniques. Mediapart, eux, avec 70 000 visiteurs uniques, ils s'en sortent. Ils ont un autre modèle économique qui ne dépend pas de la massification de l'audience. Ils ont trouvé une autre façon. Malheureusement, c'est les seuls. Mais Mediapart, au niveau économique, c'est une sublime réussite.
Une question derrière ?
Ouais, juste une petite question, c'est de savoir pourquoi Mediapart, qui vend son abonnement à 9 euros, si je m'abuse, et des types Le Monde, Libération, qui vendent plus de 30 euros au mois, n'arrivent pas à s'en sortir.
C'est pas Mediapart s'en sort très bien.
C'est pour ça que je
Mais quelle est la valeur ajoutée du Monde exactement? C'est
pour ça que je pose la question.
Non, mais tu évoques deux types de médias très différents. Comme le disait Daniel Schneiderman tout à l'heure, ça coûte pas très cher de créer un média sur Internet. On l'a fait avec Reflet. Et Mediapart l'a fait aussi. Les seuls coûts pour Mediapart, ce sont ses locaux et sa rédaction qui est finalement assez réduite. Le Monde, c'est un énorme paquebot, c'est monstrueux. Donc, si tu veux, les besoins en financement sont bien plus importants. C'est pas la même chose.
Et après, il y a aussi le problème de la perception de valeur. La perception de la valeur ajoutée de l'information du Monde aujourd'hui, elle n'est pas très lourde. Elle ne justifie pas que tu sors 30 euros par mois. La perception de valeur de Mediapart dans la société française d'aujourd'hui, elle justifie largement que tu sortes 9 euros par mois. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas Mediapart, ça fait un peu peur. S'il n'y avait pas Le Monde, qu'est-ce que ça changerait? Rien. Donc, bon, il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de trouver des modèles économiques. Il y a moyen de faire du vrai journalisme d'investigation. J'allais dire à la papa, mais c'est vraiment ça, Mediapart. Hein. Dans la plus pure tradition du journalisme d'investigation et d'avoir une utilité sociale, démocratique et d'être rentable. C'est faisable. On a un exemple en France et il y en a quelques-uns aux États-Unis. Mais ceci dit, par rapport à la masse des médias qui existaient il y a 10-20 ans, c'est vrai que c'est pas lourd, quoi. Qui est toi ?
Non, ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On arrive à 9h, donc on va bientôt devoir libérer la salle et Paul. Donc, oui ?
Oui, pourquoi il n'y a pas d'autres justement journaux comme Mediapart? Pourquoi il y a cette pauvreté entre guillemets de diversité?
Et c'est comme les supermarchés, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis tous les supermarchés, bah, le petit gars du coin qui te vend des bons produits, il crève de faim.
Tu vas en voir, si tu regardes un journal marocain qui s'appelle Lacom, tu vas t'apercevoir que de l'autre côté de la Méditerranée, fait par des expats, t'as un début de renouveau intéressant du journalisme qui est très très violent à la Mediapart, plus brute de décoffrage et moins professionnel quand même, mais malgré tout t'as des points de renouvellement du journalisme qui arrivent sous la forme de blogs, sous la forme de trucs comme Reflet, qui arrivent sous la forme de feux OVNI. Donc ça bouillonne malgré tout pas mal. La plupart
des gens qui produisent ce genre d'informations renoncer à en faire un modèle économique? Et objectivement, pourquoi tu peux aussi avoir un métier et écrire et vivre de ton métier et ne pas vivre de ton écriture. C'est pas non plus invraisemblable comme avenir pour la production d'informations. Et les informations produites par les experts sont produites comme ça. C'est pas totalement aberrant, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts, mais finalement ça en pose aussi aux journalistes. L'histoire du journalisme est parsemée de problématiques de conflit d'intérêts. Donc ça nécessite quelque chose qui est arrivé très très vite dans les blogs, qui s'appelle la full disclosure, qui fait que quand un blogueur écrit sur un sujet avec lequel il a un conflit d'intérêts, ou qu'il y a une quelconque situation de conflit d'intérêts autour de lui, il le signale. C'est la règle dans le blogging, ça n'est absolument pas la règle dans le journalisme, les journalistes ne font jamais ça. Les journalistes ne signalent jamais qu'un tel est un annonceur, qu'un tel est un actionnaire, ou que eux, à titre personnel, ils sont en telle ou telle situation de conflit d'intérêt. Ça ne se fait pas, alors que c'est une règle dans la blog, et que grâce à ça, bah, tu as quand même des trucs qui ne sont pas des médias, qui ne sont pas des centres de profit, mais qui produisent de l'information très intéressante. Le problème, c'est que c'est dans un bordel inimaginable, ça n'est pas structuré comme les médias d'autrefois, et que du coup, on est en train de passer d'une société où il y avait des sites, des silos d'informations très bien identifiés, qui étaient l'information officielle, hein, Le Monde, IB, TF1, Europe 1, etc., à un système qui est en réseau, qui est extrêmement complexe, et dont...
Qui est confus.
Oui, c'est la modernité est toujours confuse. Quand on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance, avec l'invention de la perspective, c'était super confus. D'accord. Hyper confus. Alors, rassure-toi, tu as un cerveau, donc tu vas pouvoir t'en servir pour... aborder cet aspect confus et malgré tout en sortir quelque chose d'intelligent.
D'accord, mais peut-être que justement cette chose que vous décrivez, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des acteurs, on va dire à la fois historiques et gros, hein, Le Monde, le Huffington Post, etc., etc. L'idée c'est de, et malgré ça il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas de modèle économique, ou du moins qui cherchent même pas à en avoir un. Enfin, après tout,
non, c'est la subvention ou c'est l'armement ou...
Non, c'est pas forcément ça, parce que quand on regarde des blogueurs justement tunisiens, c'est des gens qui passent de l'information, ils la passent pour la passer, c'est pas une question d'argent, ils trouvent le temps. Voilà. Donc, je peux comprendre que le journalisme et l'argent il peut y avoir une différence entre les deux. L'idée, c'est pas ça, c'est que comme vous le disiez, il y a les deux dernières minutes quand vous parliez. Il y a une infinité de personnes qui produisent de l'information, c'est confus, on ne sait pas la véracité, on n'arrive pas à mesurer. Autant un acteur comme Le Monde, il ne serait pas là comme vous l'avez dit.
Mais il y a
comme
plein de choses fausses dans Le Monde, il y a plein d'informations qui sont fausses.
Daniel
Schneiderman
aurait pu t'expliquer que... Je vous reprends, quand vous disiez que Le Monde, après tout, il ne serait pas là, il y aurait quelque chose d'autre, ou on ferait avec. La différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus quelques sources d'informations. Heureusement qu'il n'y a pas de CSA ou de CNC pour la presse, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas de blogueurs. Mais tout à l'heure, on parlait de modèle économique. Moi, je crois que personnellement, il manque un modèle économique et pas quelque chose ni de capitaliste ni de marxiste qui permette à des gens qui passent de l'information et qui la passent à la fois en chopant des sources, c'est-à-dire en se renseignant, et en plus en étant pédagogue, hein. Je vous rassure, c'est comme un professeur d'école.
On va peut-être arrêter avec le marxisme parce que ça ne marche pas. Tout le monde est d'accord avec ça.
Mais non, mais hein, le
capitalisme
si,
non plus.
Si,
le capitalisme, ça
oui,
marche, mais
si,
pas pour
si,
tout le monde.
Si
c'est
si
pas pareil.
Ça, ah, si d'accord. Je dis ça, c'est n'ayons pas peur de l'argent. Je veux dire, quelqu'un qui travaille pour choper des sources d'informations intéressantes, ça ne dérange pas qu'il soit rémunéré. Je veux dire, un blogueur, par exemple, qui va donner de l'information, ok, il ne fait pas ça pour l'argent. Qu'il soit rémunéré, c'est une autre chose. Et je pense que ça serait légitime. Que les citoyens, enfin voilà. Si on voit des initiatives qui sont, positives, autant les soutenir.
Vous pouvez d'ailleurs faire un don à reflet.info. Voilà, je crois que dernières paroles, on va rendre l'antenne.
Absolument, et on vous remercie de votre présence, de la qualité de vos voix, bien grave,
merci,
etc.
Merci.
Et vraiment, et on continue alors cette aventure.
On continue, on va essayer de monter quelque chose.
Quelque chose de bien, trapu.
Quelque chose de bien trapu, peut-être sur la transparence ou des choses comme ça.
On verra. La prochaine, c'est la transparence.
Moi, ça me fait peur, la transparence. On voit tout le temps. C'est comme si je vivais tout nu dans la rue. Non, moi, je suis contre.
T'es contre?
C'est bien,
ok, on verra.
Tu vas voir. De toute façon, on n'a pas le choix.
Merci.
C'est un peu plaisir.
dans ce contexte des révolutions arabes, on en vient maintenant à cette polémique. La France a-t-elle permis au colonel Kadhafi d'identifier et donc d'interpeller des opposants au régime ?
Eagle, c'est le nom du logiciel qui fait polémique. Il est français, mais surtout il a servi à espionner des opposants libyens.
Donc Cosmos est une société qui a une spécialité que nous appelons Network Intelligence, c'est-à-dire qu'en fait on extrait l'information du réseau IP pour alimenter les applications.
Des individus se revendiquant membres d'Anonymous ont accordé des interviews aux médias, faisant croire au public qu'ils étaient susceptibles de donner de la voix à notre collectif. Ils s'arrogent le droit moral et physique de parler au nom d'Anonymous, alors qu'ils ne connaissent même pas, en général, le fonctionnement, les détails techniques, l'histoire, ainsi que les principes fondateurs du mouvement. Entièrement ce centre de surveillance des communications par Internet.